BFM Business, tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
Au sommaire de ce jeudi 23 mai, la portabilité des prêts bancaires, est-ce une bonne idée pour relancer l'immobilier résidentiel? L'idée est de pouvoir transférer un crédit existant sur l'achat d'un nouvel appartement ou d'une maison sans avoir à contracter un prêt à de nouvelles conditions. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On en parlera dans un petit quart d'heure avec nos invités du Talk. Emmanuel Macron veut faire de la France l'un des leaders mondiaux en matière d'intelligence artificielle, mais sommes-nous suffisamment armés en matière de financement? Dans la Deep Tech, les investissements sont en baisse sur ce début d'année par rapport à l'an dernier. On verra pourquoi tout à l'heure à 10h45. On vous expliquera le fonctionnement des applications mobiles d'investissement. Elles se développent de plus en plus grâce à ce qu'on appelle la gamification. Quel est le principe et surtout comment s'assurer que la gamification ne devienne pas une distraction par rapport à l'objectif initial d'investissement? Rendez-vous donc à 11h30 tout à l'heure pour en parler. Et puis, investir dans un sac à main de luxe, c'est aussi une forme de placement. Comment se lancer? Comment faire le bon choix? Quelles sont les erreurs à éviter? C'est Léa Lejeune qui sera avec nous à 11h45 pour nous expliquer le principe et les pièges à éviter. Mais tout de suite, les marchés financiers. Avec Antoine Larigaudry, que l'on retrouve au siège d'Euronext. Bonjour Antoine, le marché parisien repart en territoire positif.
Oui, mais alors vraiment pour le principe, hein, Stéphane, plus 0,26% pour un CAC 40 qui reconquiert les 8100 points, 8114, hausse légèrement supérieure pour les valeurs techno avec l'Euronext Tech Leaders qui gagne 0,3%, plus 0,2% pour le DAX à Francfort, plus 0,49% pour l'Eurostock 50. On sent quand même que tout cela est bien laborieux. On est pris entre deux feux sur le CAC 40 ainsi que sur l'ensemble des places européennes. Alors c'est vrai que les résultats absolument stratosphériques d'NVIDIA rassurent l'ensemble du marché en matière de perspectives dans le domaine de l'intelligence artificielle autant que dans la high-tech de manière générale. Oui, mais voilà, il y a aussi les propos de la Fed et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire qui plombent un peu l'atmosphère avec la confirmation que le ton est beaucoup plus offensif que ces dernières semaines concernant l'inflation. Certains gouverneurs trouvant que vraiment l'inflation persiste de manière inquiétante et certains d'entre eux étant même favorables à de nouvelles restrictions en matière de politique monétaire. Donc du coup, ça fait se tendre les taux d'intérêt qui restent vraiment calés sur 4,4% pour la dette américaine. Mais les taux européens ont tendance à se tendre un petit peu, notamment après les premières publications de PMI, notamment en Allemagne. Le résultat, c'est qu'on est en hausse, mais vraiment pour le principe. À noter les principales progressions du moment. EuroAPI qui se redresse, plus 3,2% à 3,35€. Mais le titre était en très forte hausse à l'ouverture après l'annonce d'un contrat important de fourniture à un grand laboratoire de produits vétérinaires. On a également la Coface qui gagne 2,5% à 14,15€. Plus forte hausse du CAC 40, c'est Stellantis qui se redresse bien, plus 1,5% à 20,70€. Schneider Electric plus 1,48 à 236,50€. La parole aux valeurs cycliques et industrielles ce matin. Parmi les plus fortes hausses, à noter le secteur bancaire aussi qui se porte bien avec Société Générale qui gagne 0,97% à 27,52€. À la baisse, on retrouve Eurofin Scientifique moins 1,7, 58,86. Dassault System moins 1,36 à 39,30. Edenred moins 1,18, 46,07. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Forvia, qui perd 1,7% à 14,74€. Puis à noter Soitec, on aurait pu croire que le groupe aurait profité de l'appel d'air d'NVIDIA, mais pas du tout. Il perd 1,57% à 112,60€ après parution de ses propres chiffres, avec une tendance encore toujours compliquée dans le domaine des semi-conducteurs. Plus 0,26 pour le CAC, 8113, une hausse vraiment pour le principe. L'euro 1,0835, Stéphane.
Merci beaucoup Antoine Larigaudry, on se retrouve dans une heure pour un nouveau point complet en direct du siège d'Euronext. Il est 10h07, le journal de votre argent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Avec Charlotte Tamer, experte en finances personnelles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En cette période de déclaration d'impôt, on va parler d'une stratégie qui rend le CTO, le compte-titres ordinaire, fiscalement attractif et compétitif. En anglais, c'est le Tax Loss Harvesting. C'est quoi? C'est une stratégie de vente à perte pour des raisons fiscales?
Oui, tout à fait. En fait, le Tax Loss Harvesting, il est beaucoup pratiqué aux États-Unis parce qu'il y a des enveloppes, il y a beaucoup moins d'enveloppes fiscales comme le PEA ou l'assurance vie. Et en fait, la stratégie, elle est assez simple. Elle consiste à entériner ces moins-values sur une année fiscale pour pouvoir les reporter sur les plus-values à venir pendant 10 ans. Parce qu'on le sait, les moins-values mobilières qui sont déclarées à temps et qui sont actives sont reportables sur les plus-values actives à venir sur les 10 prochaines années. Et donc, on peut s'auto-créer sa franchise d'impôt sur le compte-titres ordinaire, ce qui le rend d'autant plus attractif.
La gestion sous mandat, on va en parler également aujourd'hui, elle permet aux investisseurs de ne pas se soucier du suivi de leur assurance vie, de leur PER. Mais est-ce que c'est vraiment la garantie d'un meilleur rendement ? Les Échos parlaient cette semaine du grand bluff de la gestion sous mandat.
Effectivement, il y a un article un peu choc qui est sorti.
Un peu provoque
et un peu généraliste, on peut le dire, dans Les Échos sur la gestion sous mandat. Au final, la gestion sous mandat, c'est d'abord vu comme un outil d'aide à la décision. C'est ça qui doit ressortir aujourd'hui. L'investissement, la capitalisation boursière est devenue un enjeu sociétal qui doit concerner tout à chacun. Alors pour des projets d'avenir, qu'importe le projet, mais qui concerne de plus en plus de monde. On peut investir aujourd'hui dès 1 euro. Et je pense que le robot advisor, la gestion sous mandat, reste encore aujourd'hui le meilleur outil d'aide à la décision pour permettre aux gens les moins rassurés, les moins connaisseurs, de mettre un pied dans l'eau, de mettre un pied à l'étrier, comme on dit. Après, il faut faire attention, avoir quelques principes de précaution, mais je pense qu'on en reparlera juste après.
Oui, on en parlera tout à l'heure dans le débat avec Stéphane Van Nuffel, mais derrière cet article, derrière ce sujet, il y a aussi l'éternel débat entre gestion active, gestion passive.
Alors, il y a ce débat, non parce que, enfin, je ne suis pas tout à fait alignée avec vous, parce que je pense qu'en gestion active, on peut aussi avoir besoin de la gestion sous mandat. Choisir un ETF n'est pas quelque chose de si simple en soi, et puis on le voit dans la gestion passive, certains robots advisors proposent une gestion globalement passive avec un petit peu de tactique sur le côté, ce qu'on appelle les fonds diversifiés en ETF. Ouais. Donc c'est pas 100% de la gestion passive, mais l'ETF n'empêche pas le mandat de gestion, bien au contraire.
On va parler de Taylor Swift, la chanteuse américaine. Elle ne remet pas en question la règle de Taylor, qui est une règle de politique monétaire, mais elle marque en revanche l'irruption du monde du spectacle dans la sphère des banques centrales.
Effectivement, il y a une tournée mondiale, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, c'était un peu pour le fun act de ce matin. Et au final, Taylor Swift a créé un raz-de-marée partout où elle est passée aux États-Unis. Et au final, on se rend compte qu'elle a eu, d'un point de vue local, hein, c'est pour ça qu'elle ne remet pas en cause non plus toute l'économie américaine, mais elle a eu un impact local sur les villes où elle est passée. Et d'ailleurs, c'est à Philadelphia où on se rend compte que le taux d'occupation des hôtels, au niveau de la restauration, les chiffres, on a atteint des chiffres records qui n'avaient pas été atteints depuis le post-pandémie. Donc elle arrive bientôt en Europe, bientôt en France aussi. Est-ce qu'elle va surpasser ce qui se passe au niveau des JO ? Mais en tout cas, elle a un réel impact qui a fait dire, en fait, au niveau des États-Unis, que la consommation, en fait, se portait plutôt bien, malgré des taux directeurs qui restent plutôt élevés.
Ouais, certains nous parlent d'une chanteuse systémique, hein, qui est capable de faire bouger
l'économie. Oui, on parle aussi de Swift Economy.
Voilà. Merci Charlotte, vous restez avec nous dans un instant. Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement, va nous rejoindre pour le talk de Tout pour votre argent. D'abord, le marché, Antoine nous le disait, la séance en cours à la Bourse de Paris, on progresse, mais vraiment sans grande conviction. On va justement se pencher sur cette séance avec Mathieu Cérone.
Tout pour investir, le match des traders.
Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous, trader, fondateur de Galileo Trading. D'abord un mot sur cette séance, cette tentative de rebond du marché parisien. Antoine nous le disait, c'est vraiment sans grande conviction. Hein.
Oui, tout à fait. Nous avons des marchés qui sont extrêmement calmes depuis plusieurs jours, qui sont à la recherche d'un catalyseur pour bouger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Nvidia, ils en ont trouvé un intéressant, puisque la troisième capitalisation américaine a fait mieux que prévu au premier trimestre en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Elle est attendue actuellement en hausse de 7% à 1017 dollars. Mais pour autant, en Europe, eh bien, les marchés piétinent toujours autant. On se maintient assez nettement en dessous des plus hauts récents. On est à environ 1% des plus hauts récents. Et pendant ce temps-là, les marchés américains, eux, sont au-dessus. Hein. Le SP500 et surtout le Nasdaq ont dépassé leur plus haut précédent. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, les tendances de fond, bien évidemment, il n'y a pas de changement. On reste haussier hein, sur les indices, le CAC, le DAX. On reste toujours éloigné des niveaux de remise en question. Moi, depuis plusieurs mois maintenant, sur le CAC, je surveille la zone des 7800 points, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien, à optique moyen-long terme, nous sommes du bon côté. En dessous, nous aurions une dégradation. Pour l'instant, à quasiment 8100 points, on est éloigné donc de ces niveaux-là. Donc, mais à court terme, on a tout de même un biais qui tend vers la neutralité. Vous voyez, c'est pour ça que je travaille les deux sens, justement, pour jouer cette phase, voilà, d'hésitation avec pas grand chose dans le pipe. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est un peu, on va dire, inquiétant, entre guillemets, pour des acteurs, on va dire, dynamiques à court terme, comme je le suis. On s'attend pas à grand-chose en termes de volatilité. D'ailleurs, il suffit de regarder, par exemple, la volatilité implicite. C'est très intéressant de regarder de ce côté-là. Puisque vous prenez le VIX aux États-Unis, on arrive sur des plus bas historiques. Il est actuellement autour de 11,5. Les plus bas historiques se situent autour des 10. Donc, on se rapproche de ces niveaux-là. Donc, les investisseurs ne s'attendent à pas grand-chose, il n'y a pas énormément de danger. On se demande bien le carburant, ce qui pourrait provoquer une poursuite des marchés, mais en même temps, il n'y a pas non plus de faiblesse. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut avoir une poursuite de cette phase d'hésitation-là, de latéralisation. C'est pour ça qu'à court terme, eh bien, j'exploite un biais neutre, je joue les deux sens. Sur le CAC, eh bien, je travaille aussi bien à l'achat qu'à la vente. Là, pour ce début de journée, j'essaye d'acheter à partir de 8065-70. Donc là, je vous parle du futur échéance juin, 8065-70, jusqu'à éventuellement 8050, qui est les plus bas d'hier après séance. Et à la vente, bah, plutôt vers 8135, avec un niveau intermédiaire à 8118. Mais vous voyez, je privilégiais pas de directionnel fort. Sur le fond, oui, la tendance est haussière, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais à court terme, ben, je pense qu'on peut alterner phase de hausse, phase de baisse. Il y a quelques semaines, ces mouvements-là s'enchaînaient avec beaucoup de violence et une forte volatilité au gré des déclarations des banquiers centraux, au gré des publications d'entreprises. Maintenant, on commence à y voir un petit peu plus clair. Les publications d'entreprises sont quasi terminées. On a eu la plus grosse hier. Et puis, au niveau des déclarations des banquiers centraux, alors oui, il y en a encore eu hier soir, mais on y voit un petit peu plus clair en ce qui concerne l'évolution des taux à venir. Donc, je crains que cette phase-là se poursuive. Sur les actions, il y a des petites choses aussi à signaler. Vous voyez, hier, on avait, même depuis quelques temps, on a un petit warning qui a été envoyé par les valeurs du luxe. Alors, faut toujours faire très attention à ces valeurs-là, parce que quand on analyse ces valeurs-là, parce que par le passé, eh bien, elles nous ont montré une belle capacité à rebondir, mais on a un petit warning. On voit que ça freine quand même sévère au niveau de l'activité. Vous avez Hermès et LVMH qui ont cassé hier des plus bas sur plusieurs mois. En revanche, quand on regarde les mid et small, et j'en parle sur votre antenne depuis pas mal de temps, on a toujours des situations intéressantes avec des démarrages, avec des relais. Et d'ailleurs, il suffit de regarder l'indice mid et small et surtout l'indice CAC small qui surperforme assez nettement l'indice CAC 40. Donc, vous voyez, il faut plutôt peut-être aller chercher dans cette direction-là en ce moment pour aller chercher de la performance. C'est vrai que sur les grosses capis, hormis quelques démarrages, comme par exemple hier Dassault Systèmes avec une configuration graphique assez intéressante de retournement, sur les autres, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de volatilité. En revanche, sur les petites et moyennes capitalisations, il y a vraiment des situations intéressantes avec des vrais relais, des vrais mouvements. Ça fait on va dire un bon mois que ça dure, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une telle période.
Merci beaucoup Mathieu Céron d'avoir été en ligne avec nous, trader et fondateur de Galileo Trading. On reparlera des marchés tout à l'heure à 11h avec Antoine Larigaudry en direct d'Euronext. Le talk de Tout pour votre argent à suivre.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Avec toujours en plateau Charlotte Tamer, business directrice du business développement chez Shares. Désolé, je me suis trompé de titre tout à l'heure. Et Stéphane Van Uffel, cofondateur de Net Investissement. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
On va parler de la portabilité des prêts bancaires. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour relancer l'immobilier résidentiel? En tout cas, c'est une proposition du député Damien Adam. Alors, l'idée, c'est de pouvoir transférer un crédit immobilier existant sur l'achat d'un nouveau bien. L'avantage pour l'acheteur, ce serait de conserver les anciennes conditions.
Alors, évidemment.
Par exemple, un taux à 1% au lieu de 3,5-4% actuellement. Mais c'est vraiment une bonne idée, notamment pour les banques ?
Alors, ça dépend d'où on se place. D'abord, il faut savoir que ça existe déjà. Donc, nous, on a toujours expliqué à nos clients d'aller regarder dans les petites conditions générales ou particulières de leurs offres de prêt, parce que figurez-vous que certaines banques le pratiquaient déjà. Attention, c'est compliqué, parce que je ne vais pas faire un cours d'économie, mais si la banque vous a prêté il y a 5 ans à un certain taux fixe, eh bien évidemment, elle doit se refinancer régulièrement parce qu'elle n'a pas, elle, emprunté l'argent à la banque centrale pour la même durée que vous. Donc les banquiers, entre 1,20 et 3,97, ce qui est l'écart à peu près sur 20 ans, sur 24 mois, c'est la banque qui devrait porter cette différence. Donc ça existe déjà. En général, c'est plutôt pour les bons clients. Mais on a tout à fait compris.
Bien le plus tôt, c'est pour les bons clients.
C'est, alors, quand je dis bons clients, c'est pas forcément les plus riches ou les plus larges. Non, d'accord. C'est pour les fidèles clients, d'accord, les vieux clients qui ont, bah, tout le package bancaire, quelques cartes bleues, un chèque qui est des petits plus.
Liquidité.
Qui crée un chiffre d'affaires pour la banque, c'est normal.
Ouais.
Il y a donc un risque pour la banque qui donc freine des deux pieds, hein. La Fédération Française des Banques a freiné des deux pieds. C'est une piste quand même pour relancer l'immobilier, parce que ça permettrait finalement de refluidifier des transactions. Donc ça, évidemment, de l'autre côté, la Fédération de l'immobilier, elle dit c'est super. Le grand gagnant, bah, vous l'avez compris, ce serait finalement le particulier qui a un prêt pas très vieux, c'est-à-dire qui a encore des intérêts à payer et qui n'est pas en bout d'amortissement, et qui aurait entre-temps aussi un peu d'épargne lui permettant de combler avec son ancien prêt plus une épargne cumulée, l'acquisition d'un nouveau bien. Parce que forcément, en général, quand on a amorti, on n'a pas forcément les moyens d'acheter une nouvelle maison avec l'ancien prêt. Mmh. Dans le meilleur des mondes, ça fait partie de la demi-douzaine de petites choses qui seraient bien de mettre en place au cas par cas pour refluidifier finalement les transactions.
Mais potentiellement, ça concernerait beaucoup de monde.
Bah, on n'a pas vraiment les chiffres, parce que je vous dis aussi, ça dépend aussi de la durée de votre prêt.
Ouais.
C'est-à-dire, en gros, s'il vous reste que 2-3 ans sur un prêt de 20 ans, c'est pas les intérêts de 2, même si le taux est à 1,20 et que vous repartez pour 2-3 ans, ça n'a pas de sens. Il y a d'autres moyens de se financer. Maintenant, c'est quand même très intéressant de l'avoir, parce que ça vous évite quand même potentiellement tout un tas d'embêtements, c'est-à-dire entre deux transactions, on est obligé de passer par un prêt relais. Donc en fait, on abandonne tout ça, alors qu'il pourrait y avoir des solutions finalement assez simples, quitte à ce que peut-être on comble un nouveau prêt en complément de l'ancien avec les nouveaux taux. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire de dire, grosso modo, essayons de trouver un juste milieu entre le professionnel quand même, parce que le banquier est là pour gagner de l'argent,
ouais,
et le particulier qui aujourd'hui hésite et ne fait plus à cause des taux trop hauts. L'important, c'est de refluidifier ce marché de l'immobilier.
Charlotte, c'est une bonne nouvelle ?
Moi, je trouve que la nouvelle, elle serait plutôt géniale, très clairement. Mais moi, pour une situation personnelle, je me dis, c'est. Après, je pense que ça concerne un micro-marché, oui, et ça résolve absolument pas le problème des primo-accédants, des gens qui ne sont pas endettés aujourd'hui et qui n'arrivent pas à avoir accès à l'endettement. Et c'est ça, je pense que le gros de la stagnation du marché immobilier vient plus de là que du transfert, enfin du changement de résidence ou de l'acquisition d'un nouveau bien. Je pense que ça ne résout absolument pas le problème de l'accès à la propriété et de l'accès au crédit pour les gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Mais effectivement, pour les gens qui seraient en volonté de changer de la résidence principale pour s'agrandir un petit peu, ça peut être une très bonne nouvelle. Point de vue investisseur, niveau de la banque, je pense qu'ils aiment beaucoup le prêt-relais et qu'ils aiment bien aussi se rémunérer. Donc, à voir. En tout cas, je conseille à tout le monde d'aller lire ces conditions générales. Merci Stéphane pour le conseil.
Stéphane l'a dit, hein, les banques freinent vraiment des deux pieds. Wow. On va rester dans le secteur immobilier. Les chiffres catastrophiques de l'immobilier neuf, comment les comprendre, Stéphane? Et surtout, est-ce qu'il y a un moyen d'en tirer profit?
Alors, on va pas encore faire une énième mauvaise nouvelle et venir à la Cassandre du marché immobilier. Moi, ça fait
c'est quand même une réalité.
Non, mais vous savez, Stéphane, moi, je viens de l'immobilier, donc c'est un sujet qui depuis plusieurs mois, on le voyait venir. C'est très inquiétant. Là, il y a plusieurs chiffres qui sont encore sortis sur le premier trimestre 2024 par rapport à 2023, qui étaient déjà catastrophiques sur les dépôts de permis de construire ou les mises en chantier, qui chutent encore entre 7 et 10% pour l'un et l'autre. Donc, ça veut dire que ça ne s'arrange pas. C'est de plus en plus catastrophique. Et puis, il y a des éléments qui sont très importants, mais il y en a un que j'ai surtout retenu. À l'époque, je pense que c'était l'été dernier, la Caisse des dépôts et consignations était venue nous dire « Vous inquiétez pas, je vais pouvoir acheter en bloc aux promoteurs des stocks de projets, ce qui permet de maintenir l'activité du promoteur et puis de résorber évidemment une partie du logement intermédiaire et social. » Bon, ben, malgré ça, on a encore quand même une chute de 21% des réservations des particuliers et grosso modo, il n'y a plus de ventes, moins 40% de ventes de projets, y compris avec ce que la CDC a injecté pour les promoteurs. Donc là, on est quand même au bord, non seulement d'une vraie crise immobilière qui n'est plus due qu'à une hausse des taux, puisqu'on a vu que les taux s'étaient en train de fléchir, mais une crise sociale fondamentale pour tout le microsystème autour. Et surtout, ce qu'on se dit, parce que quand il y a une crise financière, ça peut repartir assez vite. L'immobilier, d'expérience, il y a une énorme latence avant que tout ça ne redémarre. Donc même si, Madame Lagarde, nous annonce des bonnes nouvelles, même si il y a des nouvelles aides, une nouvelle loi de finances qui permettrait aux investisseurs de rebénéficier d'avantages fiscaux, le temps que ça se mette en place, projet, dépôt de permis de construire, construction, bénéfices pour les clients, on sait que 2025, et ce serait que finalement fin 2026. Donc on est vraiment sur un secteur d'activité qu'on a pris vraiment plein les dents, alors que finalement on sait que c'est la base quand même, quand l'immobilier va, tout va, mon cher Stéphane.
Charlotte, peut-être un commentaire ?
Sur l'immobilier neuf, pas tellement, mais effectivement, les chiffres sont pas bons, et on le sait, étant donné que l'actif est tangible et réel, c'est pas la même chose que sur les marchés financiers où on est sur des choses immatérielles et où tout va effectivement plus vite avec ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment.
Mais Stéphane a dit quelque chose de très intéressant. Cette crise, elle est plurifactorielle. C'est pas uniquement lié à la remontée des taux d'intérêt.
Non, mais je pense que l'immobilier a aussi bien performé. Enfin, je veux dire, les marchés ne font pas que monter, mais l'immobilier non plus. Et à un moment donné, on le voit sur l'immobilier d'entreprise, hein, depuis déjà plusieurs, un peu plus longtemps que sur l'immobilier résidentiel. On le voit maintenant sur le résidentiel et notamment sur le neuf. Après, un marché, quel qu'il soit, ne fait jamais que monter et connaît aussi des phases de baisse. Le tout est de savoir comment les amortir de la meilleure manière, parce que là, l'immobilier du neuf touche à des sujets sociétaux bien plus graves derrière.
Stéphane, juste une petite chose, dans les chiffres que j'avais regardés, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à cause finalement de cette vraiment implosion de l'offre, je vais le dire comme ça, sur le premier trimestre, pas 2024, par rapport à 2023, en moyenne nationale, le prix de l'immobilier neuf a augmenté de plus de 1%. Donc la mécanique de se dire on monte les taux, ça va freiner le marché immobilier comme on le ferait avec n'importe quel, et ça fera baisser les prix. Et ben là on est dans un système où complètement qui est en train de se
là on parle
sur la tête.
D'une moyenne après,
des moyennes évidemment
sur certaines zones on a des baisses de prix
évidemment,
qui sont assez marquées.
Et puis il y a les matières premières, il y a beaucoup de choses qui expliquent tout ça, mais c'est quand même assez surprenant.
On va revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec Charlotte, c'est la gestion sous mandat. Est-ce que réellement ça permet aux investisseurs ça leur garantit un meilleur rendement? Les Échos, Charlotte nous le disait, a publié en début de semaine un article un petit peu provoque en disant que c'était le grand bluff. Stéphane, votre sentiment, la gestion sous mandat?
Alors, je suis partagé sur ce sujet. On a déjà eu pas mal de débats avec Charlotte sur le sujet. Gestion active, gestion passive. Ensuite, gestion sous mandat, gestion pilotée, gestion libre accompagnée. Et là, je vais être très transparent avec nos auditeurs et téléspectateurs. Chez Net Investissement, on fait de la gestion libre. Donc, le client fait ce qu'il veut avec son contrat, mais il est accompagné par son conseiller en gestion de patrimoine. Donc, ça reste de la gestion libre, mais conseillée.
Ouais.
La gestion sous mandat, c'est à partir du moment où vous déléguez concrètement, contractuellement et financièrement, parce que ça coûte finalement plus cher, la gestion de votre portefeuille. Moi, j'ai tendance à dire, très franchement, la gestion sous mandat, ça peut très bien se passer pour des gens qui n'ont aucune appétence pour la finance, comme la gestion passive avec des ETF, etc., etc. Et que bon an, mal an, si on ne regarde que le rendement moyen sur tant d'années par rapport à entre gestion sous mandat, gestion libre, etc., on va pas avoir des différences suffisamment énormes pour expliquer l'impact que ça peut avoir sur, par exemple, des gens âgés, des gens à l'étranger, etc. Je pense que c'est dû et c'est fait pour certaines catégories de personnes qui ont envie d'être un peu tranquille aussi, parce qu'un bon investissement, c'est pas que la rentabilité, c'est aussi de dormir tranquille la nuit.
Charlotte?
Mais je pense que ce serait difficile de comparer de la gestion libre et de la gestion sous mandat, parce que étant par principe que la gestion est libre, il en existe 10 000, enfin, je pense qu'il y a un nombre infini de portefeuilles particuliers, donc la comparaison serait impossible. Je tiens quand même à alerter sur l'article qui a été écrit, qui fait des comparaisons moyennes, donc déjà sur un nombre assez important de mandats. Donc effectivement, il faut faire attention au prix du mandat, mais comme tout, enfin, comme tout investissement, le but, c'est la rentabilité. Le premier ennemi de la rentabilité, ce sont les frais. Nous, chez Shares, on propose de la gestion libre et maintenant de la gestion pilotée. Je pense que là où il faut faire, où c'est important, c'est à quel niveau d'accompagnement l'investisseur a besoin d'aller sur le marché. Et là où il faut mettre un petit peu entre guillemets ce qui a été écrit dans l'article, c'est que les comparatifs se font surtout, en fait on prouve que c'est pas très bon, enfin l'article prouve que c'est pas très bon sur de la gestion prudente, sur de la gestion équilibrée, c'est-à-dire sur des profils qui ont au moins 50% d'actifs fonds euros et obligataires, donc non garantis en capital, et que sur cette période de 2017 à 2023, on a rencontré ce qu'on rencontre une fois tous les 20-30 ans sur le marché, un krach obligataire. Et ça, c'est pas mentionné, et ce qui vient vraiment drastiquement baisser la performance et la rentabilité de ce type de portefeuille. Moi, je pense qu'il faut partir de ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné? Est-ce qu'on préfère faire les choses seul? Ça, c'est vraiment des convictions personnelles, mais je pense que la gestion sous mandat est un outil d'aide à la décision qui est fondamental, étant donné l'ampleur que doit prendre l'investissement par capitalisation en France aujourd'hui auprès de tout un chacun. Et je pense également qu'elle peut éloigner les biais cognitifs, qui sont un deuxième facteur de sous-performance en termes de gestion.
Il nous reste peu de temps, on va parler du livret A, placement préféré des plus de 50 ans. Ça vous paraît cohérent, Charlotte ?
Non, enfin, rien ne me paraît très cohérent avec le livret A, on en a tellement parlé. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à 50 ans, normalement, il me reste à peu près 15 ans avant la retraite. Et quand je regarde les performances du S&P, là, on parle beaucoup du S&P sur les derniers jours, et quand je regarde les performances des indices, ne serait-ce qu'américains, sur les 5, 10, 15 dernières années, je me dis que c'est quand même dommage de s'en priver. En tout cas, je pense que les cinquantenaires d'aujourd'hui ont besoin de ces intérêts, de ces profits pour leur retraite future.
Non, ce qui était intéressant, c'est que cette étude est très française, c'est-à-dire que les 50 ans, on est jeune. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que je vais basculer bientôt. Non, je commence à me rapprocher, moi. Et j'ai trouvé que, finalement, que les cinquantenaires placent déjà le livret A comme placement préféré était inquiétant à une majorité assez importante devant l'assurance vie en euros, évidemment.
Mais ça révèle, quoi? On n'a pas une appétence pour le
livret A? Non, ça révèle que les Français n'ont pas encore bien saisi, parce que je sais que quand leur réponse part du principe qu'ils considèrent le livret A comme ils ont raison de le considérer, c'est plus on vieillit, plus on a besoin d'avoir de l'épargne de précaution pour se protéger.
Liquide,
et puis qui actuellement, pour le coup, n'est pas contre-productif en rémunération. Mais ça, on continue à le répéter, Warren Buffett, moi j'avais appris ça à l'école, c'est très simple, vous prenez une base 100, vous enlevez votre âge et vous savez ce que vous devez sécuriser. Donc si vous avez 70 ans, 70% de vos actifs financiers doivent être garantis. Vous avez 80 ans, c'est 80. Vous avez 20 ans, il n'y a que 20% qui doit être garanti, les 80% doivent être en prise de risque. C'est un truc vieux comme le monde, mais à ne pas confondre épargne de placement avec l'épargne de précaution qui, c'est vrai, plus on vieillit, plus peut être nécessaire pour les aléas de la vie au quotidien.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce talk. Charlotte Tamer, experte en finances personnelles, directrice du business développement chez Shares, et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement. À suivre, juste après la pause, Nicolas Dose et sa dose d'économie. On parlera ensuite du marché obligataire avec Ronan Blanc. Et puis, notre coach du jour viendra nous parler du financement des deep tech. Emmanuel Macron veut faire de la France l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on a suffisamment de ressources en matière de financement? On en parlera tout à l'heure à 10h45. Restez avec nous.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Qui paye l'impôt sur le revenu? C'est un sujet de saison. La Direction générale des finances publiques a publié une réponse actualisée avec, j'imagine, un pourcentage.
Oui, il y a tous les chiffres actualisés. Alors, ça porte sur les impôts déclarés en 2023, donc l'année 2022. Première remarque, moins de la moitié des ménages français payent l'impôt sur le revenu, on le sait, mais là, on a les chiffres actualisés. 18,2 millions de foyers payent l'impôt sur le revenu sur pratiquement 41 millions de foyers en France. Le montant moyen payé par foyer imposable à l'impôt sur le revenu est de 4 663 euros, le montant moyen. Deuxième remarque, il y a de moins en moins de foyers qui payent l'impôt sur le revenu. En 2013, on avait 52% des foyers qui payaient, donc plus de la moitié. Maintenant, c'est 45%. Alors, c'est assez logique. En 2014, François Hollande va supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, celle qui était à 5,5%. Puis en 2020, la nouvelle première tranche va être abaissée par Emmanuel Macron. Elle était à 14%. Elle passe à 11%. Voilà deux premiers éléments de réponse sur qui paye l'impôt sur le revenu.
Et donc, Nicolas, l'impôt sur le revenu en France reste payé par une minorité de foyers. Ça, ça a des implications.
Clairement, et surtout, c'est une toute petite minorité qui, à elle seule, verse les trois quarts de la recette. Et ça, c'est une vraie particularité. C'est-à-dire que là, très précisément, la DGFiP nous dit au-delà de 2740 euros par mois de revenus mensuels de référence, ça correspond à un célibataire qui n'a pas d'enfant, au-dessus de 2740 euros par mois de revenus fiscaux de référence, eh bien, les gens qui sont au-dessus de ce salaire-là versent 76% de la recette intégrale de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que c'est les 10% en fait, des Français les plus riches qui versent 62 milliards d'euros de recettes d'hier sur un total de 82 milliards d'euros de recettes d'hier. Et ces gens-là, au-dessus de 2740 euros, le montant moyen d'impôt qu'ils payent, c'est pas 4663, c'est 15 310 euros en moyenne d'impôts. Et quand on prend le 1% tout en haut, voilà, vraiment les gens les plus riches du pays, la facture moyenne d'impôts que ce 1% verse, c'est 68 000 euros. C'est pas mal de remettre ces chiffres un peu au milieu des réflexions. Autre observation de la DGFiP, les Français les plus riches, qui sont donc taxés à l'IR, sont ceux qui ont le moins profité des hausses de rémunération en 2022. Ce sont principalement les bas salaires et les basses pensions de retraite qui ont été les plus revalorisées. Après, l'IR participe bien sûr à la redistribution française, où les riches payent pour les moins riches. Je rappelle qu'avant impôts et prestations sociales, donc après les salaires uniquement, prenez les 10% tout en haut, les 10% tout en bas, l'écart est de 1 à 13. Quand on a fait la redistribution après impôts et les prestations sociales, de 1 à 13, on tombe de 1 à 7. Et une fois qu'on a ajouté l'apport des services publics pour les catégories les moins bien rémunérées, où il y a énormément d'éléments gratuits, je passe à des questions d'éducation, de santé, de logement, l'écart tombe entre 1 et 3. Donc on est parti à 13 tout en haut pour arriver à un écart entre 1 et 3. Ce qui montre bien qu'on a un système de redistribution qui fonctionne. Et on a plus de la moitié du pays, plus de la moitié des Français qui sont ce qu'on appelle des bénéficiaires nets. Cela veut dire que tous les ans, ils reçoivent plus de la collectivité que ce qu'ils vont payer sous forme de taxes ou sous forme de contributions. Parce qu'évidemment, on est bien d'accord, tous les Français payent de l'impôt. Tous ne payent pas de l'impôt sur le revenu, mais tous les Français payent de l'impôt, ne serait-ce que la TVA, et puis tout salarié verse des cotisations. Et d'ailleurs, les cotisations pèsent beaucoup, beaucoup plus que l'impôt sur le revenu.
C'est intéressant ce que vous dites sur la redistribution, parce que la France est aussi l'un des pays où on a le sentiment d'injustice, oui. Notamment fiscale, qui est particulièrement aigu. Quelle conclusion peut tirer de tous ces chiffres?
Je dirais la conclusion que rien ne change, le fait que moins de la moitié des foyers payent, on le savait, mais on voit que rien ne change, mais les écarts se creusent entre ceux qui ne payent pas et ceux qui payent. Je considère, moi, que l'impôt sur le revenu coche toutes les cases du mauvais impôt. Parce qu'en réalité, il rapporte très peu. Il rapporte environ 3,5% du PIB dans des pays comparables aux nôtres, c'est plutôt entre 9 et 10. Donc il rapporte peu. Il est payé par de moins en moins de gens, qui, eux, payent beaucoup individuellement et vivent très mal cet impôt. Et j'en tire aussi la conclusion que c'est une petite leçon à ceux qui désignent constamment un pays d'inégalité, ultra-libéral, avec un impôt qui ne serait pas progressif. Je crois que là, on a quand même des éléments qui font que ces gens-là, à mon avis, sont mal renseignés. Ensuite, derrière, il y a un autre sujet, et je finis par là, ce sera l'objet d'un autre rendez-vous. Il faudrait aussi qu'on parle de la CSG, parce que la CSG, c'est un impôt sur le revenu, qui, celui-là, est payé par tout le monde. Et ça mériterait peut-être de rouvrir le débat qui a eu lieu à un moment, de savoir s'il ne faudrait pas fusionner l'impôt sur le revenu que j'ai décrit avec la CSG, qui est une sorte d'impôt sur le revenu de la même manière, totalement universelle, payé absolument par l'ensemble des revenus.
Merci beaucoup, Nicolas Dose, la dose d'économie tous les matins, et bien sûr, les experts de 9h à 10h tous les jours sur BFM Business. 10h37, on va parler du marché obligataire.
Tout pour investir. En portefeuille.
Avec Renan Blanc, gérant obligataire à la Financière Arbevel. Bonjour Renan.
Bonjour.
On s'est beaucoup, beaucoup focalisé sur les banques centrales, notamment sur la Réserve fédérale américaine, avec des anticipations de baisse de taux qui ont vraiment été revues à la baisse en l'espace de quelques mois. Certains analystes ont même envisagé qu'il n'y ait pas de baisse de taux aux États-Unis jusqu'aux élections du mois de novembre. La réalité, c'est que la détente des conditions de financement et les résultats d'entreprise ont été pour les marchés des moteurs beaucoup plus puissants que les taux très élevés des banques centrales, en fait.
C'est l'enseignement de la phase qu'on a vécue. En début d'année, je me souviens, il y avait entre 6 et 7 baisses de taux qui étaient anticipées. Certains prédisent aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, avec les vieux réflexes du passé de dire de toute façon la BCE n'agira jamais avant la Fed, c'est jamais arrivé, etc. Bon, on sait que ces dernières années, les choses qui devaient jamais arriver se sont souvent produites. Le vrai enseignement, c'est que le logiciel de pensée des banques centrales est modifié a priori quand même dans la durée, c'est-à-dire que les baisses préventives de taux qu'on a pu connaître dans le passé appartiennent au passé, ça c'est clair, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est aussi le signe finalement que les choses vont pas si mal, hein, ce fameux ralentissement en douceur que certains avaient encore du mal à accepter, c'est quand même quelque chose qui est en train de se dessiner. Les entreprises n'ont pas attendu qu'on leur dise d'agir pour prendre des mesures, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Hein. À la fois, les ménages ont beaucoup mis de côté, mais les entreprises sont aussi assises sur des matelas de sécurité assez, assez épais. Et maintenant qu'on gagne un petit peu en visibilité sur le cycle économique, et même monétaire, puisque baisse de taux, il y aura quand même, hein, ça sera un accompagnement plutôt qu'un grand cycle de baisse, bah, ces liquidités vont être progressivement redéployées. Donc c'est ce qui explique finalement que même si certains ont pu être déçus du retard ou peut-être du rythme inférieur aux attentes sur cet accompagnement monétaire, bah, finalement les actifs risqués se portent plutôt pas mal depuis le début de l'année.
La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera le 6 juin. A priori, elle va annoncer une première baisse de taux. Quelle est l'urgence de baisser les taux? En Europe, 70% des entreprises continuent de se financer principalement avec du crédit bancaire. Est-ce que ça ne montre pas l'urgence justement d'alléger un petit peu la pression et de baisser les taux?
C'est le facteur qui est vraiment déterminant entre les deux côtés de l'Atlantique. Hein. Au-delà du fait que la croissance américaine est plus élevée qu'en Europe, hein, on le sait tous, hein, ce gap est en train progressivement de se creuser. On sait que depuis le mouvement depuis la crise financière de 2008, il y a un mouvement de désintermédiation qui s'est enclenché. Donc, sous-entendu, les entreprises européennes essayent de rattraper leurs homologues américaines dans leur diversification à l'accès au financement. Elles étaient trop banques, pas assez marchés.
Donc ce ratio, quand même. Oui, mais
le truc, c'est que c'est un process qui est long. Donc ce 70%, ça veut dire que cette fameuse transmission monétaire que la BCE nous rappelle à l'ordre, elle est d'autant plus d'actualité chez nous. Donc ça veut dire que il y a une mécanique qui est un petit peu plus forte sur le fait que cette sensibilité au crédit bancaire face au taux de la BCE. C'est moins vrai aux États-Unis. Mmh. Clairement, les portes du marché du crédit aux États-Unis sont très grandes ouvertes. C'est des ratios quasiment inverses. C'est-à-dire que c'est 30, un peu plus du tiers aux États-Unis où les entreprises dépendent principalement des banques pour se financer. Donc ce ratio-là, bah, il se voit, cette transmission monétaire, elle doit se faire mieux. Et c'est pour ça qu'on croit depuis un petit moment que la BCE est en capacité finalement de procéder à une première baisse avant la réserve fédérale. Donc c'est pas des divergences hein, de cycle monétaire, c'est plutôt un décalage dans le temps. C'est-à-dire que la Fed, elle va le faire quoi? Peut-être en juillet, allez, maximum au mois de septembre. Il y a des éléments factuels un peu plus rassurants, notamment sur l'inflation américaine. Mais il n'y a pas de précipitation à voir. Et je finirai là-dessus sur les banques centrales. C'est pas parce qu'elles commencent qu'elles vont aller en accélérant. Elles gardent vraiment toutes les cartes en main et elles ne vont pas trop dévoiler leur jeu. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y aura 3 baisses de taux en Europe cette année. Mais on ne va pas avoir un message très clair. Il ne faut pas s'attendre à un message très clair de la part de la BCE au mois de juin.
Et surtout, je crois que tout le monde est d'accord, on ne reviendra pas à la situation antérieure. Hein. La situation de taux négatif, c'était une anomalie.
Alors, il y a une anomalie
bénie pour les emprunteurs, mais...
A posteriori, c'était sans doute ce qu'il fallait faire. Hein. Quand on a le choix entre la peste et le choléra, bah, on choisit la moins mauvaise des solutions. Mais clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir oublier. Mais encore une fois, le côté positif, c'est que quand on a des opérations de fusion-acquisition, des choix d'investissement qui sont faits par les entreprises, ils sont beaucoup plus mûris qu'avant. Là, on raisonne vraiment sur les retours sur investissement parce que bah, le cash coûte de l'argent. C'est quelque chose qui n'existait pas pendant le Covid avec ces fameux taux négatifs. Donc, voilà, on atterrit sur une situation un peu plus normalisée, même si j'aime pas trop cette expression. Et finalement, c'est pas plus mal, puisqu'on a des choix d'investissement qui sont plus raisonnés aussi en face.
Depuis l'été dernier, près du tiers des échéances obligataires 2024-2026 ont été refinancées en Europe et pratiquement 40% aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entreprises prennent les devants, elles veulent rester prudentes. Vous disiez, il y a quand même pas mal de prudence dans la gestion de ces entreprises.
Oui, alors, on nous parle souvent dans l'obligataire du fameux mur de dette. C'est-à-dire, ouais. si on se rappelle un an auparavant, beaucoup nous disaient, sur le marché à haut rendement européen, il y a 200 milliards de dettes à refinancer d'ici 2026. Et comment on va faire? En fait, on va faire. C'est-à-dire qu'on va avancer, pas par pas. Les entreprises prennent les devants, montrent au marché qu'elles sont capables de générer des flux de trésorerie positifs, hein, parce que c'est un petit peu ça le nerf de la guerre. La dynamique des résultats a plutôt été positif, enfin, oui, clairement constructif ces derniers trimestres. Hein. Et donc, du coup, là, à date, on a déjà enjambé un tiers de ce mur de dette. Depuis le début de l'année, on a quasiment 50 milliards d'euros d'obligations nouvelles qui ont été émises et qui viennent refinancer la dette existante. Donc, il n'y a pas entre guillemets, on ne rajoute pas de la dette à la dette. Hein, c'est simplement, on va proposer de racheter par anticipation les dettes courtes pour émettre du plus long. C'est ce qu'on appelle de la transformation. Donc, d'ici à ce rythme-là, d'ici le premier semestre de l'année prochaine, ce mur de dette sera quasiment enjambé en totalité. Donc voilà, faut pas en avoir peur. Hein, l'obligataire, il y a toujours, par définition, un mur de dette. Mais encore une fois, faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation des entreprises et le fait que dans un scénario de certes croissance molle, mais croissance positive quand même, tout n'est pas à jeter. Alors, il y aura des histoires de restructuration, il y en a eu, hein, on est en plein dans le scénario Atos, on a eu Casino précédemment, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment des stigmates post-Covid d'entreprises qui avaient un business model qui n'était viable uniquement par le fait que l'argent ne coûtait rien. Maintenant que l'argent coûte quelque chose, ces business models ne sont plus viables.
Et la génération de cash devient une priorité. Hein.
Ah, ça devient une priorité, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire que oui, on peut prêter, il n'y a pas de difficulté en soi, mais il faut aussi prouver à un moment donné que cette dette, on va être en capacité de la rembourser un jour. Hein, c'est assez facile à comprendre. Et donc, il y a une minorité du marché de la dette en Europe qui sera amenée à sans doute restructurer d'une manière ou d'une autre sa dette. Alors, ça a différentes formes, hein, soit c'est le cataclysme total à la Casino et là votre dette, bah, ça vaut plus rien. Ou alors vous avez ce qu'on appelle des rallongements ou des réaménagements, c'est-à-dire qu'on va vous payer peut-être un coupon un petit peu plus élevé dans le futur. Voilà, c'est un peu la carotte et le bâton à la fin des fins, mais c'est quelque chose auquel il va falloir se réhabituer pour une minorité. Et donc voilà, notre boulot en tant que analyste crédit est bien évidemment d'éviter ces histoires crédit et d'aiguiller les investissements vers de la dette de meilleure qualité, mais qui aujourd'hui paye un rendement significatif.
Nouvelles conditions de financement, plus dures, plus restrictives, priorité à la génération de cash. Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur, ce nouvel environnement, alors, en termes d'allocation d'actifs?
Alors, déjà, l'investisseur redécouvre l'obligataire depuis 2 ans, hein, c'est une réalité. Donc, l'obligataire retrouve sa place dans les allocations stratégiques, hein, une place qu'il n'aurait peut-être pas dû perdre, mais en tout cas, sous le diktat des banques centrales, ça a été le résultat qu'on a connu. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui est bon pour le crédit, est bon pour les marchés actions aussi. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale entre les deux. On a des actifs à rendement qui retrouvent finalement leur place dans les portefeuilles et sur les marchés actions. Maintenant qu'on retrouve un petit peu de visibilité sur le cycle économique et monétaire, bah, on le voit depuis le début de l'année, on n'a pas eu ou très peu eu de baisse de taux, voire les taux souverains ont plutôt eu tendance à remonter, ce qui n'a pas empêché de voir des perfs plutôt positives sur les marchés actions. Et on continue à penser qu'il y a encore de la performance à aller chercher sur ce segment. Encore une fois, on ne met pas en opposition les classes d'actifs. Elles peuvent être complémentaires. Et d'ailleurs, on voit qu'en termes de valorisation, on a un petit peu de frétillement au niveau des opérations de fusion-acquisition qui sont encore une fois plus raisonnés qu'avant et qui sont sans doute le stigmate d'un marché un peu plus sain.
Vous dites que le marché obligataire est de retour pour les investisseurs. Quel pourcentage dans un portefeuille type, la poche obligataire?
Alors, nous, on est très peu sur les emprunts d'État parce qu'on pense que, voilà, des notions de déficit, etc. Pour une allocation, entre guillemets, globalement prudente, on peut aller facilement tiers, voire 50%, selon les supports crédits. Alors, ça englobe toute la poche obligataire. Hein. On a les placements les plus sécurisés. Nous, on propose un fonds aussi crédit court qui va bénéficier finalement de baisses de taux à venir. Et on peut aussi toujours militer pour les fameux fonds à échéance, hein, qui ont quand même animé le marché ces 2 dernières années et qui permet de figer un rendement sur une maturité un petit peu plus longue. Et ça laisse les mains libres à, entre guillemets, faire son marché sur des poches un peu plus risquées, notamment sur la partie action.
Merci beaucoup, Renan Blanc, gérant obligataire à la Financière Herbevel. Merci pour toutes ces explications. Dans un instant, on va parler de la tech, évidemment, en marge du salon VivaTech, le financement de ces entreprises de la tech et des deep tech en particulier. Vous allez le voir, le financement, les investissements sont en baisse. On va voir pourquoi avec notre invité.
Tout pour investir, le coach.
Les deep tech sont à l'honneur cette année au salon VivaTech avec notamment un grand rendez-vous organisé aujourd'hui par BPI France. On va parler du financement des deep tech avec Alexandre Lin, cofondateur de Tudigo. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane.
Alors, petite piqûre de rappel pour essayer de ne perdre personne en cours de route. Les deep tech, ce sont les entreprises ou les services qui développent des produits fortement technologique. C'est là, évidemment, où on retrouve tous les acteurs de l'intelligence artificielle.
Ouais, c'est des innovations de rupture, en général, hein, qui s'appuient sur une technologie qui a été développée le plus souvent en laboratoire, en centre de recherche, au CNRS, par exemple, dans des pôles universitaires, et qui ont été amenées avec le brevet pour en faire une application business, en effet.
Alors, on en parle de plus en plus, mais est-ce que c'est vrai aussi en termes d'investissement ? Là, on observe une baisse en volume et en valeur depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier. Pour quelles raisons ?
Alors, l'année dernière, hein, ce qu'on avait déjà vu, effectivement, c'était encore une contraction des montants levés, que ce soit par les fonds ou par les entreprises, les start-up, qui est liée, bien sûr, à la conjoncture, à la hausse des taux d'intérêt.
Conditions de financement en général.
Conditions de financement en général, mais également cette hausse des taux d'intérêt qui a un impact direct sur pas mal de sorties, notamment les sorties par LBO, les introductions en bourse qui étaient quasiment inexistantes. Donc, cette contraction-là, on l'observe en 2023, on l'observe à nouveau en 2024. Elle était très forte en 2023 parce qu'on a vu quand même une réduction de quasiment 50% du nombre d'opérations. Et voilà. Et en termes de volume, la baisse, elle est autour de 25% sur le premier trimestre. Du fait de quelques levées, méga levées qui quand même persistent. Et elles persistent notamment dans les deep tech avec effectivement l'intelligence artificielle qui en fait partie et puis les green tech.
Mais est-ce que les baisses de taux des banques centrales qu'on attend a priori dans les prochains mois, le 6 juin pour la première du côté de la BCE, est-ce que ça va améliorer les conditions de financement à votre avis ?
Mais ouais, et ça a déjà commencé. En fait, on commence à voir enfin la reprise. J'étais venu la semaine dernière pour faire le bilan d'avril qui était encore en demi-teinte, qui confirmait cette tendance baissière au premier trimestre, et là ça change, mais hein, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Vivatech, la tech française se reprennent. L'année dernière, Vivatech c'était quand même assez morose, c'était teinté d'entreprises en phase de liquidation. On avait eu Luco, on a eu quand même Mastéos l'année dernière, des licornes, quasi licornes qui sont allées au tapis, hein. Mais là ça reprend. On a eu cette semaine la levée de fonds dans l'intelligence artificielle de H, une levée quand même d'une entreprise qui va se lancer mais avec 220 millions d'euros. On a eu Mistral pour 600 millions d'euros.
Voilà. La star française de l'intelligence artificielle.
Ah, la star, d'ailleurs, la France, hein, qui vient vraiment concurrencer
les... On va parler des ambitions de la France. D'abord, peut-être un mot sur les levées de fonds early stage. On constate une baisse des montants, mais aussi on voit que ce sont les financements obtenus par une start-up au début, hein, pour soutenir sa croissance initiale. On constate que l'âge des start-up augmente, c'est-à-dire qu'elles empruntent moins, enfin elles lèvent moins d'argent et un peu plus tard.
Je vais y arriver. Les fonds, hein, depuis maintenant 18-24 mois, ont enclenché un peu un phénomène de flight to quality, c'est-à-dire que la fuite vers la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont chercher des entreprises qui sont plus robustes et ils vont de plus en plus vers des tours un peu plus avancés, donc des entreprises qui sont plutôt en phase de série A voire série B. Ceux qui étaient en série A, ils sont passés sur les séries B, ceux qui étaient en amorçage sont passés sur les séries A, et à l'exception près effectivement de ces méga levées qui peuvent être très très early stage, mais qui sont sur des montants très importants. De manière générale, les petites levées en nombre ont baissé, et puis en valeur également naturellement. Les investisseurs attendent de voir vraiment une traction qui se confirme, une rentabilité, une courbe de rentabilité aussi qui est bonne et qui amène l'entreprise vers la rentabilité assez rapidement, ou en tout cas qui permet à l'entreprise de tenir dans le temps, parce que ce qu'on voit également c'est un allongement des délais levée de fonds, ce qui implique pour les entreprises d'être capables de faire tenir leur trésorerie sur plus de mois le temps que cette reprise se confirme.
Vous l'avez dit, Emmanuel Macron veut faire de la France un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. La France a de grandes ambitions. Est-ce qu'on est suffisamment armé en matière de financement ?
On est armé en matière de financement pour deux raisons. On a la BPI qui est quand même dans le classement, dans le top des financeurs mondiaux, hein, désormais. La BPI est sur quasiment tous les deals. D'ailleurs, cet après-midi, vous avez tout un événement Deep Tech.
Organisé par BPI France.
Voilà, organisé par BPI France sur Vivatech, hein, l'Europe Deep Tech Meetup, où on parlera justement du financement de ces startups Deep Tech, pour certaines sont des très grosses startups, hein, notamment celles de l'intelligence artificielle, les entreprises dans le quantique. Donc d'un point de vue financement, côté français c'est intéressant, et puis il y a également les investisseurs étrangers qui reviennent, ça c'est aussi assez intéressant de le voir sur les deals récents. Vous avez les investisseurs américains qui étaient partis et qui reviennent, Andreessen Horowitz, Sequoia et les autres.
Les montants déployés aux États-Unis sont absolument colossaux. Est-ce qu'on a la capacité financière en France, en Europe, de lever des montants similaires ?
On l'a de plus en plus, même si on est, c'est les investisseurs étrangers et l'attraction d'investissements étrangers est importante. Et je pense que ça, c'est le travail qu'avait fait Bruno Le Maire lorsqu'il s'était déplacé à New York. Il a fait sa tournée de Wall Street justement pour promouvoir la France. C'est le travail que fait Emmanuel Macron également. C'est tout l'intérêt effectivement d'un salon international comme Vivatech, où on verra Elon Musk normalement, hein, je pense demain, hein, les sœurs Williams également. Qui viennent. Vous avez quand même un beau coup de projecteur sur ce que fait la France, et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec des investisseurs étrangers et des investisseurs français, hein, Xavier Niel et d'autres, qui investissent massivement dans ce domaine parce que en France, on a aussi la chance d'avoir les compétences, le pool de scientifiques qu'il faut pour avancer là-dessus.
Il y a une vraie attractivité des startups françaises de la tech au niveau européen, au niveau mondial.
De plus en plus. Ouais. De plus en plus, parce que c'est vrai que toute cette campagne sur les licornes, tous ces investissements qui ont été faits dans la tech française, et puis dans la deep tech aussi, parce qu'il y a eu une très grosse focalisation et des gros investissements, subventions, donc à la fois donc privés et publics, sur les deep tech ces trois dernières années, on fait émerger des leaders, futurs leaders, sur ces catégories qui sont très en vogue et stratégiques.
Vous êtes cofondateur de Tudigo. Quels sont les critères, les principaux critères que vous regardez avant d'investir dans des startups, notamment dans la tech?
On en regarde beaucoup, mais effectivement, si on prend la tech, et puis on se fait une focalisation sur même la deep tech, bien sûr, ça va être la proposition de valeur et la capacité de l'entreprise à la délivrer. Comment on l'évalue, nous? C'est ce qu'on appelle le product market fit, la rencontre entre la startup et puis son marché, et qui se démontre aussi via une traction commerciale, la capacité de signer des clients, que ce soit des pilotes ou des vrais clients, et de montrer une croissance. C'est le premier. En deep tech, ça va être le niveau d'avancement technologique qu'on qualifie avec le TRL, Technology Readiness Level, niveau de maturité technologique. Vous avez une échelle de 1 à 9, on va chercher à partir de 6-7, donc quand l'entreprise a déjà des premiers pilotes avec des industriels, et voilà, que la technologie a déjà été testée en environnement réel et pas uniquement en labo.
Ouais.
Et puis après, très très important, surtout dans ce contexte, nous on regarde beaucoup effectivement la capacité de l'entreprise à dégager de la rentabilité et à minima en tout cas à avoir une trésorerie suffisante pour tenir sur au moins 18-24 mois. Parce que effectivement les levées, même pour des entreprises qui étaient en très forte croissance et qui comptaient lever tous les ans, ce qu'on voit c'est qu'il y a un vrai allongement des délais sur les levées de fonds. Donc l'entreprise doit montrer une capacité à être résiliente et puis à être pérenne.
Mais est-ce qu'au global, vous avez l'impression que les investisseurs sont beaucoup plus regardants qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années ?
Ouais, que ce soit au niveau des particuliers et des professionnels.
Ouais.
Les professionnels parce que ils ont moins de fonds en attendant effectivement de déboucler leurs fonds.
Donc l'allocation est plus sélective.
L'allocation est plus sélective et puis ils ont très très peur effectivement du risque, le risque de casse, le risque de liquidité, et donc ils se déplacent vers des plus gros deals. Les investisseurs particuliers sont de plus en plus éduqués et puis il y a de plus en plus de choix. Le niveau, nous ce qu'on constate chez Tudigo sur les 600 à 800 dossiers qu'on reçoit tous les mois, c'est que quand même en fait on a de plus en plus de beaux dossiers par rapport il y a 3 ans, le niveau général moyen a très 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 fortement augmenté. Et puis les particuliers maintenant aussi voient qu'ils arrivent à co-investir, et sur Tudigo on le fait très très souvent maintenant, avec les fonds d'investissement, avec des family office de premier rang, sur des tours de table ambitieux, et donc plus un choix qui est plus important, donc une sélectivité aussi qui augmente.
Merci beaucoup. Alexandre Lin, cofondateur de Tudigo. Vous serez cet après-midi au salon Vivatech, porte de Versailles à Paris. BFM Business et partenaire. Vous allez participer à cet événement organisé par BPI France, je crois.
Tout à fait, à 14h30.
Voilà. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Léo Dumas. On retournera sur les marchés financiers avec Antoine Larry-Gaudry. Et puis, dans la place de l'Imo, un match aujourd'hui. Ce n'est pas une affiche de foot. Hein. Lille contre Marseille. On vous expliquera les avantages, les inconvénients de chacune de ces deux villes et laquelle est plus intéressante pour investir dans l'immobilier. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
Au sommaire de cette deuxième heure, le match entre Lille et Marseille. Ce n'est pas une rencontre de football, c'est le match immobilier qu'on va vous proposer dans un instant. Quelle est la meilleure des deux villes pour investir en matière de rendement, en matière d'offres? On en parlera avec notre invité Imo et Marie Cœur de Roy, notre spécialiste du secteur. On va vous parler également des applications mobiles d'investissement. Elles se développent de plus en plus, grâce notamment à ce qu'on appelle la gamification. Quel est le principe et surtout comment s'assurer que la gamification ne devienne pas une distraction par rapport à l'objectif initial d'investissement? On expliquera tout ça à 11h30. Et puis on vous proposera une idée d'investissement à 11h45. Et si vous achetiez des sacs à main de luxe, c'est une forme de placement. Comment se lancer? Comment faire le bon choix? Et surtout, quelles sont les erreurs à éviter? Léa Lejeune, journaliste et cofondatrice de Plan Cash, sera avec nous donc tout à l'heure à 11h45. Mais d'abord, les marchés financiers avec Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une heure, que ça manquait vraiment de conviction ce rebond, et vous aviez raison parce qu'on est pratiquement à l'équilibre, hein. Le rebond qu'on avait constaté à l'ouverture a fait long feu.
Oui, la maigre tendance haussière qu'on avait, elle a fait long feu. Plus 0,08% à peine pour le CAC 40, qui est à 8098 points encore une fois. On semble vouloir aller tester les supports sous les 8100, tendance un tout petit peu meilleure, mais vraiment guère plus. Sur les technos, plus 0,27% pour l'Euronext Tech Leaders. On a du plus 0,14% pour le DAX à Francfort. Plus 0,32% pour l'Eurostock 50. Tiens, un facteur quand même très, très intriguant, hein, dans ces conditions de marché où on sent qu'on perd un petit peu pied. On a des indicateurs de volatilité qui plongent. L'indice VIX américain tombe sur des plus bas depuis désormais fin 2017. On est loin sous les 12 points. On est à 11,50, 11,60. Et malgré tout, on a des marchés qui perdent complètement leur souffle. La faute aux taux obligataires. Le discours de la Fed dans les dernières minutes de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale montrait que beaucoup de gouverneurs considèrent l'inflation encore comme une menace prioritaire contre laquelle il faut éventuellement avoir une politique encore plus restrictive que maintenant. Et du coup, les taux se sont tendus. 4,43 pour la dette américaine 10 ans. Et dans le sillage, on a les dettes européennes qui remontent aussi après les bons chiffres des PMI. On a du 3,02 pour la dette française 10 ans et 2,56 pour la dette allemande. La plus forte hausse du CAC, elle est pour Capgemini qui gagne 1,9% à 237,40 €. Capgemini qui s'en tire bien aussi, plus 1,49 à 210,70 €. Publicis plus 1,24 106,30 €. À la baisse, on retrouve Eurofin Scientifique à moins 2,10, 58,62 €. Dassault Systèmes moins 56 à 39,22 €. Orange moins 1,07 10,59 €. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Euraseo qui perd 2,4% à 76,85 €. Mais EuroHappy signe la plus forte hausse avec un contrat important signé avec un laboratoire vétérinaire. Le titre gagne 4,12% à 3,38 €. Le CAC plus 0,07, un très très faible hausse. 8097 points du côté de l'euro face au dollar. On est toujours légèrement au-dessus d'un 0,8, 1,08, 39, Stéphane.
11h08 pratiquement, perdre du poids et gagner de l'argent, c'est l'histoire d'Antoine.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Et oui, Antoine, vous avez choisi de nous parler d'un produit financier qui fait maigrir. C'est un ETF spécialisé dans les thérapies anti-obésité. Il vient d'être lancé, je crois que c'est aux États-Unis.
Oui, absolument. C'est du côté de Wall Street. C'est une société qui s'appelle Roundhill Investment qui le lance. Alors, c'est vrai que si on regarde les dynamiques de développement et les plus fortes hausses sectorielles sur les marchés actions ces dernières années, il y a évidemment toute la tech et spécifiquement la tech liée à l'intelligence artificielle qui signe parmi les plus fortes hausses. Il y a eu le luxe, bien évidemment, ces dernières années qui désormais est la plus forte pondération sectorielle du CAC 40 et sans doute de l'Europe, si on met tout ensemble. Et puis évidemment, il y a aussi les thérapies anti-obésité et il est évident que quand on voit la progression de Novo Nordisk, d'Eli Lilly du côté des États-Unis, on peut se dire qu'on a là un segment de croissance durable qui va signer des performances boursières sur le long terme qui risque d'être très très suivi et qu'on veut suivre au plus près. Alors c'est vrai que Roundhill Investment prend pas trop de risques, on est quand même sur un marché que Goldman Sachs estime à 100 milliards de dollars quand même d'ici 2030, donc en pleine expansion et qui va continuer à l'être les années prochaines. Roundhill Investment a donc regroupé un certain nombre de... Alors, il y a deux les deux très grands laboratoires qui travaillent dessus, hein, qui signent les plus fortes pondérations de leur ETF. Eli Lilly qui est en tête à un petit peu plus de 20%. On a Novo Nordisk évidemment qui est à 19,90. Et puis derrière, tout un tas de sociétés un peu plus petites, moins connues, internationales. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays qui travaillent sur des molécules innovantes contre l'obésité. Parmi elles, dans le portefeuille, on note aussi Amgen, qui est une très très grosse biotech américaine et qui rassemble 4,2% de la pondération du portefeuille. Donc là, ça a été lancé hier, mais a priori, on peut s'attendre à un très grand succès. On va regarder ça un petit peu sur le long terme, mais c'était l'un des principaux axes de croissance qu'on promettait au marché depuis, on va dire, le début de l'année dernière, quand même, depuis que Novo Nordisk, d'ailleurs, a pris la tête des pondérations de l'ensemble du continent européen devant LVMH. On peut se dire que là, on a effectivement une dynamique de croissance inextinguible, au moins pendant une bonne dizaine d'années. Alors, on peut s'étonner aussi de ne pas voir dans cette ETF Weight Watchers, pourquoi pas des parts dans Peloton, le spécialiste des vélos d'appartement, pourquoi pas des parts dans des chaînes de sport, de salles de sport. Ça, on peut-être prévoir des ETF un petit peu plus diversifiés pour les futurs. En tout cas, on n'y verra jamais Coca-Cola, McDo ou Pepsi, ni même Mondelez, faut pas rêver.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie. C'est quand même une meilleure façon de maigrir, de faire un petit peu de sport. Mais effectivement, l'engouement pour ces produits anti-obésité, ce nouvel ETF donc aux États-Unis. Merci beaucoup Antoine pour cette histoire du jour. Dans un instant, on va parler d'immobilier avec un match, on dirait une affiche de foot, mais ça ne l'est pas, Lille-Marseille. Dans laquelle des deux villes est-ce qu'il est plus intéressant d'investir en prenant en compte un certain nombre de critères? On en parle tout de suite avec Marie Cœur de Roy et Stéphane Brion.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
Le rendez-vous quotidien de l'IMO dans Tout pour investir avec Marie Cœur de Roy, notre spécialiste IMO. Bonjour Marie.
Bonjour Stéphane.
Et Stéphane Brion, en charge du pôle immobilier de Net Investissement. Bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour
Merci
Marie.
Merci d'être avec
bonjour
nous.
Bonjour à tous, bonjour.
Je le disais juste avant la pause, on est sympa, on se dit bonjour. Le match entre Lille et Marseille, quelle est la ville intéressante, la plus intéressante pour investir? D'abord, on va peut-être planter le décor.
Oui, à chaque fois on fait reculer le moment du score, j'adore.
C'est ça.
Ah bah non,
peut-être le faire un peu plus rapidement aujourd'hui, mais c'est vrai que avant déjà le match entre Marseille et Lille, c'est surtout deux régions qui s'affrontent, le nord et le sud. Donc c'était quand même deux régions que tout oppose, mais on va le voir quand même deux villes aussi finalement avec beaucoup de similitudes. À commencer, c'est aujourd'hui peut-être les deux villes, peut-être, je dis bien peut-être, les plus plébiscitées auprès des investisseurs. Il y a vraiment une hype notamment autour de Marseille. Il y a deux, je dirais, principales raisons sur, je dirais, ces critères. C'est un critère de prix, puisqu'aujourd'hui Marseille est la ville, enfin parmi les plus grandes villes, la ville la moins chère de
c'est beau
de
quand
France.
Même.
Ah oui, c'est splendide.
Oui, enfin
magnifique.
Après il y a la qualité du photographe aussi. J'ai rien contre les Marseillais ni Marseille, hein. Mais juste oui. Alors c'est ce que vous dites, il y a une hype autour de Marseille. Faut dire que pendant très longtemps, voilà. Et là, c'est vrai que ces dernières années, on a une hausse des prix qui est assez monstrueuse à Marseille. Ça a été extrêmement rapide. Ça m'a fait un peu penser à Bordeaux, fut un temps.
Il y a eu un peu un effet Bordeaux, même s'il n'y a pas eu l'arrivée d'un TGV, ce qui a causé en tout cas l'ascension de Bordeaux. En effet, sur 5 ans, on le verra vraiment en détail en termes de chiffres. On voit vraiment une très belle évolution des prix. Et je dirais qu'au-delà de ces deux villes, de ces deux régions, c'est aussi deux métropoles qui s'affrontent. On a d'un côté Lamel, la métropole européenne de Lille, et également Aix-Marseille-Provence, qui sont quand même deux métropoles aujourd'hui assez fortes économiquement parlant. Donc je trouvais que c'était un match finalement assez intéressant, ouais. Que tout oppose certes, mais on le verra avec beaucoup de similitudes.
Mais qui dépasse vraiment le cadre de la ville. Voilà, vous dites c'est vraiment deux régions.
J'aime bien faire une approche plutôt macro, micro, même si on va quand même se concentrer principalement sur les arrondissements marseillais et sur la ville de Lille. Et les notes sont bel et bien attribuées sur la ville de Lille et de Marseille.
Alors on va commencer par Marseille. Vous dites au-delà de sa beauté, la ville de Marseille est vivante.
Exactement, elle est vivante. Alors du coup, je sais pas, on fait les notes après, c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu décousu.
Ah, non, Marie, garde le suspense.
Alors le problème c'est que Stéphane il connaît la note. Alors il faut le savoir, faut qu'on le dise à nos auditeurs et téléspectateurs. Stéphane à chaque fois qu'il vient se refuse à me donner ses notes. Et donc du coup, je sais pas tellement où il veut en venir et surtout je ne connais pas le résultat final. Donc si je peux m'amuser à dire moi selon moi qui gagne, qui perd, est-ce que j'ai le droit?
Ouais, ça marche, c'est très
allez,
bien.
Petit pronostic, Marie.
Petit pronostic, je pense qu'aujourd'hui il va nous dire que c'est Marseille avec une légère avance. Mais j'ai quand même de sérieux doutes compte tenu quand même de la vivacité économique de Lille et sa proximité avec Paris en transport en commun.
C'est très bien résumé. J'ai quasiment plus rien à dire, Stéphane, c'est merveilleux.
Bon, bah voilà, je sors de l'antenne. Alors,
un quart d'heure quand même.
Ouais.
Donc Marseille, ville vivante.
Ville vivante, plusieurs raisons. Il y a déjà quand même 90% de résidences principales, ce qui fait que c'est pas une ville aujourd'hui qui est sclérosée par à la fois des retraités, c'est pas péjoratif, ni même par du tourisme.
C'est pas Nice, quoi. Voilà, c'est ça.
Je cherchais à faire le compare. Vous l'avez compris, c'est parfait. C'est une ville aussi qui est jeune. On retrouve 6% de la population qui est étudiante aujourd'hui. Il y a quand même des grandes écoles. On a Catch Business School, on a l'Epitech, on a l'université Aix-Marseille qui est quand même l'une des plus grandes enseignes, à 80 000 étudiants. Donc c'est quand même la 6e ville étudiante de France. C'est la 4e ville touristique de France. C'est pas moins de 5 millions de visiteurs qui viennent sillonner la cité phocéenne chaque année. C'est également donc la 2e ville de France, j'en parlais, 875 000 habitants. Et puis surtout, ça c'est quand même atypique et c'est un trait particulier de Marseille, c'est certes la 2e ville de France, mais qui figure parmi les moins chères, parmi les 10 plus grandes villes françaises.
Mais je suis désolée, je sais que alors, bon, de toute façon, il fallait m'apporter vos notes, comme ça on fera ça dans le désordre. On parle souvent de Paris en disant qu'il y a quand même des enjeux de sécurité, de propreté. C'est pas le cas également à Marseille. Est-ce que c'est pas quelque chose qui plombe?
On va d'abord faire les points positifs. Moi j'ai les notes, on va essayer de rester.
Oui, mais non, mais Marie, c'est très bien. En effet, il y a quand même quelques points négatifs et c'est ce qui fait qu'on le ressent sur la note. Mais en point positif, en tout cas, et c'est ce qui plaît, je pense, aux néo-investisseurs et investisseurs qui ont un budget quand même assez limité, c'est qu'on a un prix au mètre carré qui est quand même maîtrisé. On est globalement à 3500 euros du mètre carré. Ouais. Si on fait un exemple sur une typologie T2, de 45 mètres carrés, on est globalement entre 150 à 160 000 euros.
Ah ouais.
Je vous laisse comparer avec
à Paris, par exemple.
Paris, Bordeaux ou même Lyon. On va être quand même bien au-dessus. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'en face, on a encore un rendement locatif qui est hyper sexy. Globalement, on va être entre 5 à 8%. Ça peut même être au-dessus selon la typologie et la location choisie. Donc c'est quand même des éléments qui sont assez forts et des signaux qui sont positifs pour les investisseurs.
Et d'autant qu'avec la hausse des prix dont on a parlé à Marseille, on a un marché locatif qui est de plus en plus dynamique, puisqu'on imagine que les locaux ont, un peu comme dans les autres grandes villes, de plus en plus de mal à se loger en devenant propriétaires, donc ils restent souvent locataires. On imagine que ces tensions locatives sont de plus en plus vives à Marseille.
Oui, comme c'est le cas sur la plupart des grandes métropoles françaises, mais en effet, Marseille, la tension locative aujourd'hui est quand même très élevée. Alors moins qu'à Lille, on y reviendra en détail, mais elle est quand même très élevée. Et en effet, l'évolution des prix prouve que la demande a été assez soutenue. Et on a un taux de locataires qui est globalement à 55%, donc qui est aussi positif pour les investisseurs.
Alors après les points positifs, les points négatifs, vous l'avez dit un petit peu, Marseille, c'est une ville pauvre.
C'est une ville pauvre. Je reviens et je rebondis sur ce que disait Marie. En effet, on a quand même un taux de criminalité qui est quand même dans l'ensemble supérieur à la moyenne nationale. C'est un fait, c'est avéré. On a aussi, en effet, malheureusement, des données quantifiables. Aujourd'hui, Marseille est la plus pauvre des plus grandes villes françaises. Mmh. Où on a 26% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a également un taux de chômage qui est plus élevé comparé à la moyenne nationale. On est globalement supérieur à 10%. On est à peu près à 7,5% sur la moyenne nationale. Donc ça, c'est quand même deux éléments qui sont non pas alarmants, mais qui viennent, en tout cas, je pense, diminuer la note de Marseille. On le verra ensuite après Marie.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une interrogation sur la qualité des logements? On se souvient tous des logements qui se sont effondrés dans la vieille ville.
Malheureusement, en 2018 et 2023, où il y a en plus quelques morts, en effet, il y a quand même une grande partie du parc immobilier aujourd'hui qui pourrait être considéré comme indigne, insalubre. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait quand même donné des chiffres qui étaient assez édifiants. C'est 40 000 logements à Marseille qui seraient potentiellement indignes. Ça représente 10% des résidences principales à Marseille. Donc là aussi, il y a un vrai sujet, même si on le verra sur des différents travaux, notamment d'aménagement urbain. La mairie, l'agglomération ont pris en considération et ont lancé quand même des travaux de transformation et de mutation. Néanmoins, ça reste quand même, je pense, encore un élément.
C'est un bon sujet, ça, Stéphane, sur les DPE, parce que là, on parle quand même à ceux qui veulent investir, donc c'est-à-dire acheter un bien pour le mettre à la location. Il y a beaucoup de passoires à Marseille.
Alors, il y a eu beaucoup de passoires. Est-ce qu'il y a aussi d'ailleurs un élément? Je vous disais, vraiment, Marseille est vraiment atypique pour moi parmi les 10 plus grandes villes françaises. Ce qu'on a regardé, c'est sur le volume de transactions, et notamment sur le volume de transactions sur ces passoires thermiques. Il y en a eu énormément, beaucoup plus que sur l'ensemble de la France. Alors, je pense que certains investisseurs étaient moins frileux. Attendez qu'on parle de Marseille, 300 jours d'ensoleillement.
Forcément, ça, c'est ce que disent les Marseillais.
Ouais, mais pour le coup, c'est vrai. Donc, je pense qu'il y avait moins de frilosité. Typiquement, à Lille, un logement qui va être classé E ou F, je pense qu'on est déjà un peu plus frileux dans les travaux. On l'est moins à Marseille. Donc, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de transactions sur ces passoires thermiques. Donc, je pense avec des rénovations à la clé, mais c'est pas systématique.
Ouais, mais Stéphane, enfin, en l'occurrence, l'interdiction à la location des passoires passoire thermique, elle vaut pour tout le territoire français, que ce soit pour Marseille ou pour Lille. Hein.
Elle va être progressive.
Oui, mais pas. Enfin, elle va être progressive, mais pour les G, qu'on soit à Lille ou à Marseille, le logement G, il est interdit au 1er janvier prochain.
Je suis d'accord, hein. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en tout cas, il y a eu beaucoup plus de volume, et donc par conséquent, ça a diminué automatiquement le nombre de passoires thermiques présentes à Marseille. On le verra à Lille, on a un pourcentage qui est quand même plus élevé actuellement à Marseille.
L'effet JO, est-ce qu'il peut y avoir pour Marseille un effet Jeux Olympiques ? La flamme est arrivée là-bas.
La flamme est arrivée là-bas. Il y a eu beaucoup d'infrastructures, d'équipements, notamment sportifs, qui ont été inaugurés et qui ont amené en tout cas ce vent frais autour des JO. Mais je ne pense pas que Marseille soit véritablement la ville sur laquelle on a eu vraiment un vrai enjeu et envie, contrairement à la région francilienne.
Et d'autant que Lille a aussi des épreuves qui vont s'y jouer, et je pense que pour le coup, je connais dans mon entourage, et je crois qu'il y en a beaucoup de gens qui vont aller à Lille précisément pour beaucoup d'épreuves des Jeux Olympiques, non ?
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que dans notre match, typiquement, que ce soit Lille ou Marseille...
Il n'y a pas de facteurs clés, en tout cas, qui sont liés aux JO.
Alors justement, on va parler de Lille. Merci pour la transition. Quels sont d'abord les faits saillants, les points saillants en faveur de Lille ?
Il y en a beaucoup. Parce que typiquement, si on devait comparer les deux villes, et je pense les résumer rapidement, je pense que Marseille aujourd'hui est une ville en pleine mutation et transformation. Donc il y a encore, je pense, de la marge et il y a peut-être un bel avenir. Si on compare à Lille, qui est aujourd'hui une ville assez mature, qui s'épanouit au travers de sa métropole et surtout son position géographique, qui est vraiment le carrefour de l'Europe. Donc on va le voir sur les notes, c'est quand même... J'allais faire un teasing, mais on y reviendra vraiment sur la fin.
Mais c'est assez serré, je vous donne.
C'est assez serré, le résultat. Mais on y reviendra. Je voulais juste terminer, Stéphane, si vous me permettez, sur les quelques données quantifiables sur Marseille. Oui. On parlait des prix, donc on est globalement entre 3500, 3600 euros du mètre carré pour un appartement. On dépasse les 4000 euros pour une maison. Marie le disait si bien tout à l'heure, en termes d'évolution des prix. Là, si on regarde sur les 12 derniers mois, on est à plus 4%. Alors ça peut paraître faible, c'est énorme.
Dans un marché baissier, c'est énorme.
C'est énorme. Et si on le compare au cours des 5 dernières années, on dépasse les plus 41%. Ouais, c'est tout simplement énorme. Ça prouve l'attrait et la forte demande qu'a eu Marseille. Et si on regarde maintenant au cours des 10 dernières années, on est globalement à plus 35%. Donc on voit, je vous le disais, que Marseille a quand même le vent en poupe.
Désolé, j'étais passé à la suite. Je veillais à l'équilibre des temps de parole entre Lille et Marseille. Moi, je n'ai pas de problème avec les Marseillais. Lille.
Du coup, je le disais...
Les points positifs, d'abord.
Les points positifs, déjà, c'est forcément... Transformation déjà bien avancée. On est déjà sur une ville mature qui, forcément, s'épanouit par sa situation géographique. On est au carrefour de l'Europe. On est proche, je vous le disais, donc de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la Belgique. On a, un rayonnement grâce aussi à sa métropole qui est assez forte, la Melle, dans laquelle on va retrouver Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing, Lille et encore Roubaix. C'est une métropole qui est assez forte économiquement. On a 365 000 entreprises, on a 750 instituts de recherche, dont le CHU, l'université de Lille. C'est 164 milliards d'euros de PIB régional sur différents secteurs comme l'agroalimentaire ou le transport. Et puis pour revenir ensuite simplement sur Lille, d'un point de vue micro, c'est, je vous disais, une ville qui est ultra connectée. On a une heure de train de Paris, une demi-heure de Bruxelles. C'est une ville qui repose également sur ses pôles économiques majeurs. On a Euralille, qui est le troisième quartier d'affaires en France. On a également Euratechnologie, un peu plus récent et qui a été totalement repensé en 2019, dans lequel on a 150 entreprises, internationales, comme IBM, Microsoft ou encore Capgemini. Donc là, on va être vraiment, sur un tissu économique beaucoup plus solide, si on devait le comparer à Marseille.
Et les transports locaux aussi sont pas mal.
Les transports locaux sont vraiment très développés. On a également aussi une ville étudiante. Je parlais de Marseille, mais c'est aussi le cas à Lille, puisque c'est le troisième pôle universitaire de France. On a 115 000 étudiants aujourd'hui. Et puis, je parlais des prix, et je mettais quand même en avant, l'attractivité des prix marseillais. Il faut savoir que Lille, les prix sont encore aujourd'hui cohérents. On est globalement, pour un appartement, on reste encore entre 3600 et 3800 euros du mètre carré. Ce qui fait que globalement, on est à peu de choses près quasiment sur les prix marseillais. Mmh. Avec une ville plus mature, quand même orientée vers l'Europe, très bien connectée, et surtout avec un risque locatif, et une disparité qui est moins importante si on le compare à Marseille.
Parce qu'on a une stabilité de marché aussi.
Exactement. Il faut savoir, et c'est vrai que je pense peut-être l'un des principaux défauts de Marseille, c'est vraiment ces arrondissements qui sont entièrement hétérogènes. Et donc, d'un quartier à l'autre, d'une rue à l'autre, on peut être vraiment sur un environnement, sur des prix totalement différents. Typiquement, si on prend le premier arrondissement marseillais, on retrouve la place de l'Opéra, le quartier assez chic de l'Opéra, qui se mélange au quartier de Belzunce, ce qui est lui un quartier très populaire, où les prix peuvent osciller. Voilà, on a vraiment en revanche une homogénéité beaucoup plus prononcée à Lille aujourd'hui.
On a parlé des points négatifs à Marseille. Quels sont les points négatifs de Lille ?
Justement, il n'y en a quasiment pas, voire peu. aujourd'hui à Lille.
Pas 300 jours de soleil par an.
Non, alors justement, j'allais vous faire la blague sur le climat, peut-être, mais... si on compare à Marseille, c'est vrai. Après, on aime ou on n'aime pas.
Il
n'y
a pas de Mistral.
Il n'y a pas de Mistral. On a une architecture très prononcée que l'on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, c'est une ville généralement qui plaît. Elle ressort assez régulièrement dans les classements, dans les villes où il fait bon vivre, malgré le climat nordique. Donc il y a finalement peu, je dirais, de points négatifs que l'on peut attribuer à Lille.
Vous parliez tout à l'heure de ville de vieux. pour le coup, Lille, c'est une ville très jeune, très étudiante.
Exactement. C'est le troisième pôle universitaire français, même si j'en parlais aussi pour Marseille, voilà, elle se rajeunit. On a quand même 90 000 étudiants à Marseille, 115 000 à Lille, en sachant qu'on est quand même sur deux niveaux de population différents. C'est 875 000 habitants pour Marseille, 200, un peu plus de
250 000. Oui, c'est pas la même taille.
Non, on n'est pas sur la même taille.
Et sur le parc, moi, ça m'intéresse quand même. Hein. Le sujet passoire, il m'intéresse, parce que c'est vrai que... Alors, je connais pas par cœur toutes les villes, toutes les rues de Lille, mais il y a quand même un parc relativement âgé. Est-ce qu'on est sur un taux de passoire stratosphérique et des travaux de rénovation colossaux en perspective, ou alors on a un parc qui s'est déjà bien renouvelé, bien rénové?
Alors, dans l'ensemble, il s'est bien renouvelé. D'ailleurs, données que j'ai à date, qui date de 2021, évoquait 9% du parc immobilier aujourd'hui lillois, qui serait considéré comme énergivore, comme passoire thermique, donc en effet sur un DPE.
Deux à trois fois plus faible qu'à Paris, du coup.
Exactement. Donc dans l'ensemble, ça reste cohérent. Et en effet, c'est quand même des données qui sont... Enfin, en tout cas, on a un parc immobilier qui commence à être ça.
On va donner la note quand même.
Oui, quand même.
J'ai perdu.
Marie Cœur de Roi.
Mais j'étais pas loin.
Non. Marie, elle a la note sous les yeux. Marie,
Alors, en l'occurrence, c'est Lille qui gagne. J'ai perdu, mais en fait, je redoutais que Marseille l'emporte. Pas que je suis contre les Marseillais, mais je redoutais que, compte tenu de la montée spectaculaire de Marseille, elle puisse, voilà. Mais en l'occurrence, c'est Lille qui l'emporte à 13,9.
9 sur 20. Et Marseille est tout de même bon dauphin avec une note de 13 sur 20.
Donc c'est quand même relativement serré.
C'est quand même relativement serré. Bon, on a presque un point d'écart. Hein,
on a presque un point d'écart. Et c'est quand même pour ça que j'ai voulu mettre, en tout cas, un peu plus en avant Marseille, même si le vainqueur reste Lille. Parce que je suis intimement persuadé. Mais là, on parle de Paris sur l'avenir, que ce soit court ou moyen terme, que Marseille a quand même matière à les grappiller comme de plus.
Mais du coup, ce qui est intéressant, Stéphane, à chaque fois je vous pose la question, une fois qu'on a le résultat, qu'on arrive à la fin de notre match, c'est qu'on a différents profils d'investisseurs potentiels pour les villes qu'on met en compétition. Et donc là, typiquement, j'imagine que celui qui va investir à Marseille n'a pas le même profil que celui qui va investir à Lille.
Du tout.
Donc vous conseilleriez quoi?
Alors, pour Marseille, on est plutôt orienté sur des investisseurs qui ont un budget limité, qui veulent, maîtriser leur budget, mais qui néanmoins sont à la recherche de rendement. Je répétais sur Marseille, parmi le classement des 10 plus grandes villes françaises, c'est la moins chère, et surtout sur le classement des 10 plus grandes villes françaises, c'est celle qui offre un rendement le plus important.
Ouais, donc vous étiez autour de 5%, c'est ça?
Entre 5 et 8. 5 on peut même dépasser les 8%, selon la typologie, selon la colocation et autres. Donc je dirais qu'on va plutôt s'intéresser à des investisseurs qui ont peut-être parfois une approche financière de l'investissement, c'est encore le cas, ou alors des néo-investisseurs qui veulent vraiment maîtriser le budget. À l'inverse, si on parle de Lille, là, on sera plutôt sur des investisseurs, allez, on va dire peut-être un peu plus matures, peut-être sur des secondes,
troisièmes. C'est l'investissement du bon père de famille, quoi.
Voilà.
C'est ça.
Même si je n'ai pas parlé encore de rendement
oui,
sur
rendement
Lille.
Rendement locatif brut moyen, 5%.
Donc ouais. Finalement, qui est quand même assez intéressant.
C'est le double de Paris, quoi.
Voilà, qui va être supérieur à des villes comme Lyon, même maintenant aujourd'hui Bordeaux, forcément Paris, j'en parle même plus. Donc on a quand même, je pense, alors on est même plus sur le bon père de famille, on est sur le bon compromis.
Ouais.
La ville mature, on a aujourd'hui quand même une solidité sur le parc immobilier et donc une certaine garantie sur la valeur de l'actif, avec en face quand même un rendement qui reste bon et intéressant et qui va être supérieur à des villes comme Lyon, Bordeaux ou Paris, où d'ailleurs le prix au mètre carré est quand même bien plus important.
Ouais, bien sûr.
Donc vraiment, Lille, et d'ailleurs la note le prouve, est vraiment, je dirais, une ville et même une métropole à regarder attentivement.
Mais ça m'amuserait qu'on en reparle dans un an.
Et bien avec grand plaisir, Marie.
Ouais.
Avec très grand plaisir.
Vous connaissez déjà l'affiche du prochain match?
Alors non, pas encore, mais je suis ouvert à toute demande,
Moi, je laisse. Alors, pour le coup, je suis.
Marie, la spécialiste.
Non. Alors, j'adore être surprise par Stéphane. Moi, j'adore. C'est lui qui nous propose. Et justement,
bon, dans ces cas-là,
on garde notre règle de. Normalement,
ça.
Je suis informée de rien.
Je crois que le prochain match aura lieu fin juin. Donc, avec les beaux jours, je comptez sur moi.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Stéphane. On rappelle donc le résultat de ce match. Note de 13 sur 20 pour Marseille, numéro 2, et note de 13,9 sur 20 pour Lille. Ville qui a pas trop de défauts, hein, vous nous avez dit.
Non, très peu de défauts.
Ça fera plaisir à Martine Aubry. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, on va parler des applications mobiles d'investissement. Elles se développent de plus en plus, vous les connaissez forcément. Elles se développent grâce à la gamification. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de changer la finalité de départ de ces applications? On posera la question à Damien Roux qui sera avec nous juste après la pause. Et puis tout à l'heure à 11h45, on vous parlera d'une idée d'investissement un petit peu plus original. Et si vous achetiez des sacs à main de luxe, et oui, ça peut être un bon placement à condition de ne pas commettre d'erreurs. Quelles sont les règles? Comment se lancer? Léa Lejeune sera avec nous pour nous apporter ses conseils. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
Vous connaissez forcément les applications mobiles d'investissement. Elles se développent de plus en plus grâce à la gamification. On va vous expliquer tout ça avec Damien Roux, CEO de Dreamify. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. Quand on parle de plateformes d'investissement, qu'est-ce qu'elles permettent d'acheter, ces plateformes?
Donc en fait, au niveau des applications, ça va être pouvoir investir
trading.
Trading.
Crypto-monnaie, évidemment.
Crypto, c'est ça, le participatif.
Amaury Tonquédec nous en parle souvent.
Ouais, c'est ça, le participatif, aussi les banques. Et donc en fait, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces applications ne sont peut-être pas assez utilisées. Et en fait, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en gros, les gens installent sur leur mobile entre 60 et 80 applications différentes, mais n'en utilisent que 6 à 8. Donc en gros, ça représente 10%. Et quand on regarde un peu mieux tout ça, on se dit, en fait, on se rend compte que ces applications qui sont utilisées régulièrement, c'est essentiellement celles qui créent une connexion émotionnelle, donc les messageries instantanées et toutes ces applications.
Donc ça veut dire que si ces applications veulent être plus utilisées, il faut qu'elles créent une connexion émotionnelle avec l'utilisateur du smartphone.
Ou au moins une interaction, c'est-à-dire qu'elles proposent quelque chose de plus que simplement la fonction initiale qu'elles ont. Et donc c'est là où justement la gamification peut intervenir et apporter cette couche d'interaction qui va créer de l'engagement et potentiellement fidéliser les gens.
Alors, quand on parle de gamification, on va peut-être expliquer justement en quoi ça consiste.
Oui. Donc la gamification, c'est quand on utilise les marqueurs du jeu pour créer de l'engagement ou pour fidéliser. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un jeu, mais ça va être les mécaniques, donc tout ce qui se rapporte au tableau de classement, aux points, aux badges, voilà. Donc tout ce qui permet en fait de progresser de manière ludique dans
une expérience. Donc typiquement dans une application qui permet d'investir sur les marchés, établir un classement de ceux qui ont le mieux performé.
C'est ça.
Sur une semaine, sur un mois.
Ou même favoriser l'apprentissage en fait de l'utilisateur. Moi, si je suis utilisateur, qu'est-ce que j'ai envie que cette application m'apporte? C'est qu'elle fasse de moi un meilleur investisseur. Donc en fait, la gamification, elle a ce pouvoir assez pédagogique qui va permettre justement de faire apprendre aux gens comment mieux investir, peut-être la découverte des marchés, même ne serait-ce que la découverte des fonctionnalités de l'application.
Est-ce que toutes les plateformes ou la majorité des plateformes d'investissement aujourd'hui proposent cette gamification, ou est-ce que ça reste encore une minorité?
Alors justement, j'en parlais récemment, c'est vrai que tout ce qui est finance, banque est encore assez timide vis-à-vis de ça. Parce que voilà,
on est dans la culture du milieu.
C'est ça, on associe la gamification au jeu, alors qu'en fait, la gamification, il y a vraiment des enjeux et des objectifs business derrière qui font que c'est là pour la performance. Donc,
Alors justement, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? Vous le disiez, l'engagement, la sensibilisation, la récompense.
Imaginons demain, je décide de me mettre à investir. Je suis un utilisateur standard. Quels sont les bons conseils? Comment est-ce que je vais choisir mon application? Je vais peut-être me dire, voilà, quelle est celle qui va me proposer le meilleur onboarding? C'est-à-dire, quand je vais la télécharger, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on va me dire tout de suite, ajoute de l'argent, on commence à investir? Ou est-ce qu'on va essayer, en fait, de m'éduquer et de me sensibiliser à comment le faire et comment bien le faire?
Donc ça fait vraiment partie des critères qu'il faut regarder pour choisir la meilleure application d'investissement.
Par exemple.
Ouais. Comment est-ce qu'on s'assure que la gamification ne prend pas le dessus sur la finalité première de l'application, qui est quand même le trading ou l'investissement? Que ça ne devienne pas une appli de jeu, que ça reste une appli d'investissement.
Ouais. Et c'est là où justement la gamification, il faut le voir plus comme un super pouvoir que vraiment du divertissement. En gros, on va donner le super pouvoir aux personnes de mieux se former, de mieux comprendre les marchés, de mieux s'éduquer sur la finance pour devenir des meilleurs investisseurs. Donc il faut le voir comme un support, un soutien.
Mais là, on n'est plus dans le jeu, on est dans la pédagogie.
C'est ça, et c'est là où le mot gamification, quelque part, il est composé du mot game, mais il n'y a pas vraiment cet aspect forcément jeu. C'est vrai qu'on va utiliser les marqueurs du jeu, mais ce ne sont pas que des jeux, c'est plus une logique, une séquence qu'on va mettre en place pour dire, voilà, comment est-ce qu'on développe les compétences et on fait monter en compétences les utilisateurs.
Et où est-ce qu'on place le curseur entre le jeu, la pédagogie et la fonction de base de l'application?
C'est souvent la marque qui va définir, enfin l'entreprise qui va mettre ça en place, qui va définir où est-ce qu'elle place le curseur. On a des entreprises comme Revolut qui ont peut-être une approche un peu plus ludique dans la manière de faire les choses. Après, il y a des banques plus traditionnelles qui seront peut-être plus timides justement sur les premiers pas. Mais quelque part, on sait jouer avant de savoir marcher. Donc en gros, le jeu parle à tout le monde. Voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas de limite et c'est vraiment universel.
Comment est-ce que les clients, les banques ou les néobanques définissent le degré de gamification, c'est en fonction du profil de leurs clients ? Vous parliez de Revolut qui n'avait pas évidemment la même approche qu'une banque de réseau traditionnelle.
C'est la culture de l'entreprise, c'est l'image que veut renvoyer aussi la marque. Les fintechs ont tendance à se placer dans sur des angles plus innovants. Donc, mais les banques traditionnelles, je pense, ont tout intérêt aussi à rattraper tout ça. Et elles le font déjà avec des produits divers. Quoi.
Quel est votre rôle chez Dreamify ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Donc Dreamify, en fait, on propose un catalogue de jeux et de mécaniques de gamification, d'expériences, en fait, qui viennent se rajouter en plug and play. Donc c'est comme une couche qu'on viendra rajouter sur une application existante qui permet justement de rajouter toutes ces fonctionnalités autour de la gamification.
Donc si je suis une banque ou un établissement financier que je veux proposer une application de trading, je viens vous voir et vous rajoutez couche de jeu ou de pédagogie sur mon application.
C'est ça, on va essayer de comprendre en fait les différents touch points de l'expérience client et de se dire voilà, à quel moment est-ce qu'il faut créer plus d'engagement avec le client, à quel moment est-ce qu'il quitte l'application ou à quel moment est-ce qu'il a besoin d'aide. Et en fait, c'est sur ces temps forts de l'expérience client qu'on va être capable d'insérer la gamification.
Et comment est-ce qu'ensuite je mesure l'efficacité de cette gamification sur mon application originale ?
Alors il y a évidemment le KPI principal, ça va être le taux d'engagement. Donc en gros de se dire voilà sur 100 personnes à qui on a proposé de la gamification, combien ont engagé avec le dispositif. Nous en général on constate des taux aux alentours des 85%, ce qui est énorme comparé à d'autres médias plus standards. Donc voilà, ça va être ça. Ensuite, ça va être aussi l'adoption. Donc en gros, combien de personnes sur 100 vont adopter l'application ? Et le dernier KPI principal, c'est la rétention. C'est sur la durée, combien de personnes vont rester ? Et c'est là où justement la gamification, c'est ultra puissant dans le sens où on se rend compte que quand on a une approche qui est récurrente, c'est-à-dire qu'on va proposer de la gamification régulièrement, l'adoption et la rétention sont en constante hausse. Et c'est là où vraiment il y a un intérêt, c'est... Voilà, c'est sur cet aspect récurrent.
KPI, indicateur de performance.
Oui, pardon.
Est-ce que ça fait évoluer le profil de l'utilisateur, cette gamification ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire fuir le cœur de cible ?
Comme je disais, il faut le voir comme un super pouvoir. En ce moment, on met de l'intelligence artificielle de partout pour aider les utilisateurs, aider les clients à être meilleurs. La gamification fait partie de tout ça et l'intelligence artificielle s'intègre parfaitement aussi au concept de la gamification. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire monter en compétence les gens, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui souhaitent investir, mais qui savent pas par quelle boule prendre, parce que ils ont pas les connaissances. Et la gamification peut avoir ce rôle de pédagogie.
Du point de vue de l'utilisateur, qu'est-ce que sera demain l'expérience utilisateur sur ces applications ? Vous le dites, ça a beaucoup évolué. L'intelligence artificielle apporte de nouvelles possibilités.
Je pense vraiment que le secret du succès pour les applications de demain, c'est la personnalisation. C'est comment, aujourd'hui, on ouvre son application, on a plus ou moins tous la même expérience. Et donc, demain, ça va être le challenge, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut déjà, à l'onboarding, définir le profil de l'utilisateur et ensuite lui proposer des contenus adaptés, comme un parcours pédagogique, un parcours d'apprentissage, et le faire monter en compétences pour qu'il puisse justement mieux investir et sûrement investir plus.
Ça veut dire concrètement que mon application installée sur mon téléphone portable avec mes habitudes d'utilisation sera, au fil de l'apprentissage, différente de celle d'un de mes collègues ou d'une autre personne.
C'est ce qu'il faudrait.
C'est ça l'avenir de ces applications.
On a le téléphone dans la poche, on a le téléphone constamment sur nous. Les gens passent du temps sur les réseaux sociaux à scroller des vidéos sans forcément de but particulier derrière, à part le divertissement. Pourquoi pas proposer des parcours de pédagogie, des parcours de formation, un peu comme avoir son prof de finance dans la poche et être capable de pouvoir justement monter les échelons comme ça.
Le cadre réglementaire, il est assez important lorsqu'on parle de finance, lorsqu'on parle de produits financiers. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un cadre, un risque quand on transforme ces applications en jeu de sortir du cadre réglementaire ?
Encore une fois, chaque marque ou chaque entreprise pourra mettre le curseur et chaque pays est différent aussi là-dessus. L'idée, c'est pas de, on n'est pas en train de vouloir faire dépenser plus. On est en train de rendre les gens plus smart, en fait.
Oui.
Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que le jeu biaise l'investissement ? C'était le sens de ma question.
C'est la manière dont ça va être fait. Quand il y a un quiz, quand on est sur un quiz et on pose des questions pour faire évoluer les connaissances d'une personne, on n'est pas en train de l'inciter à faire quelque chose. C'est la manière dont ça va être fait par chacun. Et justement, nous, on est force de conseil là-dessus et force de proposition pour accompagner les entreprises et leur dire comment faire les bonnes choses.
Il n'est pas question d'encourager ou de favoriser tel ou tel type d'investissement.
Non. Au contraire. Après, évidemment, comme tout, tout peut être utilisé comme on le souhaite. Mais l'objectif de base, c'est encore une fois, c'est vraiment de faire évoluer les connaissances et les compétences de l'utilisateur final.
Ces applications d'investissement, quelles sont aujourd'hui les plus populaires ?
On va avoir... En fait, c'est ça qui est difficile à définir et c'est pour ça que nous, on a aussi cette approche d'évangélisation, c'est-à-dire on vient expliquer tout ça. C'est que en gros, il y a des Revolut, voilà, je disais, qui vont proposer l'investissement crypto dans le portefeuille, mais c'est encore assez frileux parce que justement le secteur de la finance a tendance sur ce type de trend, on va dire, innovant, plus ludique, à être un peu plus lent que les autres industries. Mais par exemple, nous, on voit de très belles success stories dans le monde du télécom, dans le monde de tout ce qui est fournisseur d'énergie. Et donc, on sait que tout ça va arriver très bientôt au niveau de la finance aussi. Ouais.
Une dernière question, mais quel est le profil d'utilisateur de ces applications ? Spontanément, on pense que ce sont plutôt des personnes jeunes, plutôt des clients de banques, néobanques ou de banques en ligne. Est-ce que c'est vrai en pratique ?
Ça, encore une fois, ça correspond au fait que ce sont ces entreprises-là qui mettent à disposition de leurs utilisateurs la gamification, par exemple. Donc, une néobanque qui a une approche plus innovante va mettre la gamification. Donc, comme elle touche des clients plus jeunes, on a tendance à croire que, effectivement, l'audience sera plus jeune. Ouais. Mais en fait, chaque entreprise est maître de comment elle va vouloir sensibiliser et éduquer ses clients, quoi.
Merci beaucoup Damien Roux, CEO de Dreamify, plateforme de gamification. Donc vous aidez les applications mobiles d'investissement à devenir plus attrayantes, attractives, en leur proposant donc une couche d'interactivité pour récompenser les utilisateurs. Ça peut être sous forme de jeu ou sous forme, on a bien compris, de pédagogie. Merci beaucoup. Dans un instant, on va vous parler d'un investissement un petit peu original. Et si vous achetiez des sacs à main de luxe dans un but évidemment d'investissement, comment se lancer? Comment faire le bon choix et surtout quelles sont les erreurs à éviter. On en parle avec Léa Lejeune, journaliste et cofondatrice de Plan Cash, qui sera avec nous dans un instant. Les marchés financiers, rapidement, la Bourse de Paris est en progression de 0,23%, toute petite progression parmi les valeurs qui se distinguent. Schneider Electric, plus forte hausse, pratiquement 2% de mieux. Capgemini, 1,5% de progression. Publicis, troisième plus forte hausse, 1,3% en bas de classement. Eurofin Scientifique abandonne 2,7%. Dassault System 2,1 et Orange, l'opérateur télécom, perd 0,9%. On marque une pause et tout de suite, on va vous parler d'une autre façon d'investir.
Tout pour investir. Investir autrement.
Et si vous achetiez un sac à main de luxe dans une optique d'investissement essentiellement sur le marché de la seconde main, on va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est une piste intéressante avec Léa Lejeune, journaliste et cofondatrice de Plan Cash. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Est-ce que c'est un gros marché ?
Oui, c'est un gros marché et qui augmente de plus en plus ces dernières années. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est surtout un marché de seconde main, un marché de revente. Et c'est là qu'en fait, on peut vraiment parler d'investissement, de plus-value et de s'enrichir.
Ça paraît un peu bizarre, acheter un sac à main dans un but de placement ou spéculatif. Mais vous me disiez juste avant de commencer cette interview, c'est un peu pareil pour les montres.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un actif qu'on peut comparer à une montre. C'est-à-dire qu'on achète un actif de collection, de valeur, que l'on va conserver dans un bon état et que l'on va ensuite revendre à un prix qui varie en fonction du cours et du marché. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui.
Le conserver dans un bon état. On verra que c'est important dans un instant. Qu'est-ce qu'on achète ?
Alors,
on achète de la rareté et du luxe.
On l'achète de la rareté et du luxe. La première chose qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que pourquoi ça continue autant à progresser. Je vais juste prendre un exemple de sac à main, le sac à main un peu iconique qu'on appelle le Chanel 2.55 ou 2.55. Vous savez, c'est le petit cuir noir matelassé, là. Vous l'avez peut-être déjà vu.
Je connais. J'ai pas de sac à main personnellement.
Voilà, désolé, mais sur les réseaux sociaux ou dans des soirées est un peu luxe. Voilà, ce oui, petit sac à main là, Chanel qui est un peu la vedette en fait, a passé la barre des 10 000 euros de vente en magasin, 10 300 euros récemment.
Ça c'est le prix de vente. Ça c'est le vente. Si je vais chez Chanel.
Exactement.
Question importante, si je vais demain dans une boutique Chanel, est-ce qu'il est disponible?
Oui, celui-ci est disponible. Il n'y a pas de souci. Ceux qui sont plus rares, c'est les Birkin dont on entend souvent
c'était
parler.
C'était ma question
sur liste d'attente.
Le
voilà.
Sac vedette de chez Hermès, le Birkin, lui n'est pas disponible ou en tout cas il faut montrer patte blanche si on en veut un.
Non, tout à fait. Mais alors, ce qui est intéressant sur ces sacs à main, c'est que si on regarde dans les années 90, le petit Chanel, il était vendu 1150 euros. 1150 euros à 10 000 euros. On a fait une progression monstrueuse. Avant le Covid, il était à 6 000 euros. Ça veut dire que ça continue à progresser. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, alors qu'on a vécu la crise économique liée à la pandémie, le ralentissement du marché, etc., en fait, les marques du luxe ont continué à pouvoir augmenter leurs prix et augmenter leurs marges. Et tout ça, c'est à cause, grâce à un facteur que les économistes appellent le pricing power. Alors, le pricing power, qu'est-ce que c'est donc ces sociétés qui peuvent augmenter leurs prix même en période de crise, qui peuvent répercuter les coûts de production, de l'énergie, les coûts des matières premières.
Des marques qui sont tellement puissantes qu'elles ont tout simplement la capacité de fixer leurs prix et ça n'aura pas forcément d'impact sur la demande.
Voilà, c'est ça. Et ces marques-là, il y a en fait surtout deux secteurs, hein. La tech, on l'a beaucoup vu, et le luxe. C'est vraiment toujours à peu près les mêmes marques. Et la demande ne diminue pas, c'est ça qui est assez fou. Malgré l'augmentation des tarifs, ça ne diminue pas. Alors, ça repose sur quoi? Un savoir-faire très fort, presque discriminant, on pourrait dire. Un réseau de performance, un réseau de distribution performant. Une avancée technologique, donc plutôt pour la tech. Un désir ou une clientèle aspirationnelle, hein, c'est ça qu'on dit pour le luxe. Et puis, bien sûr, une forte valeur ajoutée, une marque inscrite dans le temps long. Bref, tout ça, c'est les facteurs qui comptent énormément. Et ce qui fait que ces produits, prennent de la valeur en magasin, etc., fait aussi que ça va gagner de la valeur sur le second marché. Alors, ce que j'aime bien quand même, c'est que souvent on dit, et peut-être que vous n'êtes pas un lecteur de presse féminine, mais on dit souvent dans la presse féminine qu'on investit dans un sac à main. Or, un sac à main, c'est un peu comme une voiture de luxe, quoi. Dès que ça sort de chez le concessionnaire, dès que ça sort du magasin, ça perd de la valeur. Donc, si on veut économiser, investir, avoir une vraie stratégie pour faire du bénéfice et de la plus-value sur la seconde main, en fait, il faut mettre en place un plan.
Alors, je vous écoute.
Alors, le plan, notez bien. La première chose, c'est de privilégier les achats sur des endroits où on n'a pas du tout de marge qui ont été mises en place. Donc, par exemple, les maisons d'enchères en ligne, les maisons d'enchères traditionnelles, mais aussi les brocantes de province, les magasins d'antiquités un peu anciens, les vide-greniers dans des trous un peu paumés où on n'a peut-être pas toujours en tête l'idée que ces sacs-là, ces éléments-là ont pris de la valeur. Ensuite, ce qui peut avoir du sens, c'est de miser sur des sacs très beaux, mais parfois un petit peu abîmés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va l'acheter moins cher, notamment aux enchères, et ensuite, on va le faire réparer. Vous voyez, c'est un peu comme quand on achète un appartement à rénover en entier. Ouais. Et bien là, s'il y a des petites rénovations, refaire une boucle, refaire un petit peu le dessus.
À condition de ne pas faire n'importe quoi.
Et à condition de ne pas faire n'importe quoi. Il faut faire très attention avec qui on travaille et privilégier plutôt les anciens confectionneurs, les anciens couturiers des grandes maisons de luxe qui, en général, les sur leur devanture.
Là, vous me parlez de création de valeur avec le sac Chanel 2.55 parce que le prix en magasin a augmenté. Donc, pour ceux qui l'ont acheté il y a quelques années, évidemment, le neuf est beaucoup plus cher aujourd'hui. Donc, mécaniquement, une occasion en bon état va prendre de la valeur.
Oui, mais
est-ce que c'est vrai aussi sur l'effet rareté? C'est-à-dire le Birkin, par exemple, on sait qu'il n'est pas disponible en magasin ou en tout cas très difficilement. Et donc, pour des personnes qui veulent en acheter un tout de suite, ces personnes-là vont devoir se reporter sur le marché de l'occasion. Et
tout
donc, il y a un effet rareté qui peut...
Il y a un effet rareté, mais ça ne marche pas pour tout. Bon, déjà, il faut savoir que les marques dont on est sûr de pouvoir les revendre et de pouvoir faire une plus-value, c'est toujours les mêmes. C'est Chanel, Hermès, Dior et Louis Vuitton.
Voilà.
Toujours. Et
faut
ensuite...
pas sortir de ces quatre, a priori.
A priori, il ne faut pas sortir de ces quatre, sauf sur des séries très limitées. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a une série limitée de Jacquemus ou quelque chose comme ça, on peut peut-être filer dessus, le garder, le maintenir en bon état. Mais c'est vrai qu'en général, ce n'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Bon, le Hermès, le Birkin Hermès, on sait qu'aujourd'hui, il peut être vendu aux enchères, que ça démarre à 10 000 et ça peut passer les 100 000.
Combien ça vaut en magasin?
Alors ça, je ne sais plus exactement, parce que les prix fluctuent tout le temps. Ouais. D'un mois à l'autre, en fait, ça change énormément.
Mais en tout cas, ça fait partie des sacs à main qu'on peut trouver plus cher en occasion qu'en magasin.
Oui, mais c'est surtout qu'en fait, le Hermès, on ne peut quasiment, le Birkin de Hermès, on peut quasiment pas le trouver. Donc en fait, là, pour le coup, on est sur un effet luxe plus rareté, et c'est pour ça qu'il a un prix aussi important, ouais. Et que les gens, voilà, se mettent sur la liste d'attente pour pouvoir l'obtenir.
Alors excusez-moi, je vous ai interrompu. Vous aviez une liste de conseils. Le maintenir en bon état, c'est très important. Plutôt miser sur un produit un petit peu abîmé et le faire réparer.
Alors en fait, c'est ça. Si on achète en seconde main, plutôt miser sur un produit un petit peu abîmé et à faire refaire sur lequel on va pouvoir faire une plus-value. Plutôt chercher les enchères et les brocantes, plutôt miser donc sur les quatre marques que je vous ai dit. Parmi les vous avez cité l'iconique Birkin, mais on aurait pu aussi citer le Lady de Dior, on aurait pu aussi citer le Speedy ou les vieilles malles de Louis Vuitton qui se revendent très cher aujourd'hui. Il faut choisir des modèles intemporels. Alors pour le coup, si mon coup de cœur à moi c'est du rose flashy ou du rouge flashy, oui. Bah ça va peut-être pas se revendre aussi bien au second marché, sauf pour un collectionneur, une collectionneuse. Et puis après, on peut ensuite revendre sur les sites traditionnels, donc c'est-à-dire les Vinted et les V-Dressing. Mais attention, il faut garder les étiquettes, les certificats d'authenticité. Si on a le package d'origine, c'est encore mieux. Tout ce qui permet de vérifier la traçabilité, parce qu'il y a énormément de faux qui sont vendus sur ces plateformes.
Alors justement, ça c'était une question. Comment est-ce qu'on décèle la contrefaçon ? J'imagine que dans ce type d'investissement, c'est le principal danger.
Oui, c'est ça. Alors, il faut faire très attention, par exemple, à la manière dont le logo et la marque sont inscrites, à la façon dont les points sont tissés sur les intérieurs des sacs à main, etc. Donc là, on peut retrouver des sites qui font ces présentations-là. Bon, nous, on le fait chez Plan Cash, hein, puisqu'on a une petite formation avec une investisseuse spécialiste en sacs à main sur plancash.fr qui permet de repérer tous ces petits bugs-là. Ouais. Mais effectivement, pour ne pas se faire avoir, il faut chercher les certificats d'authenticité, il faut regarder les logos. Il faut travailler sur les points et il faut vérifier l'historique du modèle sur Internet, dans la banque d'images de la marque.
Est-ce qu'au global, on peut quand même considérer que c'est un investissement spéculatif ? Est-ce qu'on peut se tromper ?
Oui,
miser sur un sac à main et finalement perdre de l'argent.
Oui, on peut se tromper, mais si on tombe sur une contrefaçon, pas forcément sur l'histoire du spéculatif, à moins qu'on sorte vraiment des sentiers battus, comme je vous l'ai dit. Mais a priori, on peut faire des plus-values qui sont intéressantes. Et pourquoi ça a plu beaucoup en ce moment, notamment aux jeunes femmes, hein, entre 25 et 40 ans, qui se sentent un peu, c'est un peu comme les collectionneurs de montres. C'est-à-dire, c'est un produit qui les fait rêver, qui leur donne envie de passer du temps à aller chercher toutes les chiffres et toutes les informations pour devenir vraiment expertes dans leur domaine. Et donc voilà, c'est un truc où on peut, en plus, sur un sac à main par exemple qu'on va acheter 1 500 euros, on peut le revendre 6 000 euros, on peut faire des plus-values de plusieurs milliers d'euros, ouais, en y passant un temps minimum.
Est-ce que c'est pas un peu frustrant de s'acheter le sac à main, enfin vous faisiez la comparaison avec une montre, c'est pareil aussi, le sac à main ou la montre de vos rêves, et finalement de ne pas s'en servir, de ne pas l'utiliser, de ne pas le porter pour éviter justement de l'abîmer.
Ah oui, moi je pense que c'est totalement frustrant d'un point de vue individuel. Mais là, je vous parle juste d'un point de vue investisseur. Et d'un point de vue investisseur, il faut faire ce choix. Voilà, soit on achète et vraiment dans l'objectif de revendre, soit on met de côté, on en prend soin énormément. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, les marques de luxe sont en train de réfléchir à de nouveaux moyens pour permettre de conserver la valeur au fur et à mesure des années. On verra.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Léa Lejeune, journaliste et cofondatrice de
Plancash.fr.
Merci beaucoup. Dans un instant, Sandra Gandoin et toute son équipe aux commandes de Avec vous. Sandra, vous, c'est un investissement qui vous séduirait, acheter un Birkin
J'achète, mais j'utilise, j'ai fait le choix, mais ça, visiblement, c'est pas le bon en termes d'investissement. Mais bon, je me fais plaisir, c'est clair.
Mais c'est dommage quand même, ouais, d'investir et de le garder.
Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est un choix, effectivement.
De quoi on parle aujourd'hui dans Avec vous ?
La question du jour, faut-il davantage protéger les patrons contre les faillites, par exemple ? On se posera cette question, on parlera aussi de cellules de crise en communication, dans quel cas c'est pertinent, de travaux de rénovation énergétique pour votre entreprise, d'appel au freelance ou de versement de salaire, mais aussi toutes les questions que vous allez nous poser à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. C'est la vie des entreprises qui nous intéresse pendant toute une heure.
Et tout à l'heure à 15h, BFM Crypto, ce sera avec Amaury de Tonquédec. Est-ce que c'est pas un peu dommage, Amaury, d'investir par exemple dans un grand cru, une bouteille de vin, mais dans un but uniquement de placement et de ne pas la consommer, ça aussi?
On peut investir dans le vin en NFT maintenant.
Je sais.
C'est possible. Et on peut détenir la bouteille aussi en physique, comme les ETF.
Mais on peut pas la boire.
Mais on peut pas la boire.
On peut la boire, mais du coup, si on la boit, on la revend pas derrière.
Voilà.
Ouais. Avec modération. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans BFM Crypto ?
D'un revirement politique historique aux États-Unis. C'est en train de se passer en ce moment même. Et en fait, les anti-crypto, les politiques anti-crypto avaient pris le dessus depuis novembre 2022, la chute de FTX, hein, l'ex-deuxième plateforme d'échange crypto au monde. Et maintenant, c'est en train de changer parce qu'on a des élections, Stéphane, vous le savez, qui arrivent en novembre de cette année. Et il y a quand même 20% des électeurs dans les swing states, hein, ces États qui se décident au dernier moment, qui seraient pro-crypto. Et là, la crypto commence à compter politiquement. Donc la SEC, le gendarme boursier américain, est en train de faire un revirement à 180 degrés et va peut-être accepter aujourd'hui les ETF Ethereum Spot. On en parle tout à l'heure à 15h.
Ah oui, gros sujet. Merci beaucoup. Amaury de Tonquédec tout à l'heure à 15h. Sandra Gondouin dans quelques instants avec toute son équipe. Bien sûr, Jean-Marc Daniel, Léo Dumas pour l'info et Sofiane Aklouf aux côtés de Sandra Gondouin. Je vous retrouve demain à partir de 10h. Très bonne journée.
Tout pour investir sur BFM Business.